Bon midi tout le monde, il est exactement midi. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1, l'émission On en jase avec Jeff Fortin, Pascal CV. Une grosse émission aujourd'hui, plein d'invités. On a déjà Pascal Paradis, député pour le Parti québécois dans la circonscription de Jean Talon, qui est avec nous. On va sauter avec lui, le caucus Iacarini retardé d'une dizaine de minutes. Mais avant Pascal, on a retrouvé l'arme pour ce qui est du meurtre de Charlie Kirk aux États-Unis.
Oui, le FBI qui a mis la main sur l'arme du crime. Par contre, on cherche toujours l'homme en question. Donc, chasse à l'homme qui continue pour retrouver le tueur de Charlie Kirk. C'est l'histoire, je pense, qui a attiré l'attention de tous et chacun dans les dernières heures. C'est celle qui monopolise l'actualité aujourd'hui.
Merci beaucoup, Pascal. Antonine Iacarini, tout va bien?
Tout va bien.
Merci d'avoir accepté de retarder ton caucus Iacarini d'une dizaine de minutes parce que on a la chance d'avoir avec nous en studio Pascal Paradis, député de Jean Talon pour le Parti québécois. Monsieur Paradis, ça va bien?
Ça va très bien. Salut, vous, ça va bien?
Oui, ça va super bien. Grosse journée médiatique, vous en parliez. C'est votre premier remaniement ministériel dans l'opposition. Comment vous trouvez l'exercice?
Bon, d'abord, sur le plan politique, je pense que ce à quoi on a assisté, c'est un exercice de communication politique. On change un peu, on change certains visages. Mm-hmm. Beaucoup restent au même endroit, mais c'est le même bon vieux gouvernement de la CAQ dont les Québécois savent à quoi s'en tenir.
Êtes-vous surpris, un Éric Girard, par exemple, qui reste aux finances avec le déficit de 13,5 milliards?
Bien, c'est sûr qu'après, puis c'est deux années consécutives de déficit historique, de situation même qui a mené à une décote de la part de certaines agences de crédit, en tout cas d'une agence de crédit, c'est un peu paradoxal de voir que l'équipe en place est reconduite. Alors, ça, c'est des premiers constats. Les gens disent, bien, des différents visages, mais c'est le même gouvernement que le discours du premier ministre hier. Là, on nous annonçait une grande réorientation, de la grande nouveauté. Voyez ou écoutez ce qu'il a dit hier, comparez ça à ce qu'il annonçait en 2018. C'est exactement la même chose. C'est exactement les mêmes priorités, mais il ne s'est rien passé.
Donc, pour vous, ça prouve l'échec de la CAQ dans les 7 dernières années.
Mais c'est un parti qui a l'habitude de ne pas tenir ses grandes promesses. Imaginez, c'est un parti qui est arrivé en 2018 en disant « on va faire le ménage de l'appareil de l'État » et qui, 7 ans plus tard, nous dit exactement la même chose. C'est ça qu'il a dit. Sa grande nouvelle orientation hier, ça a été ça. Et pendant 7 ans, ce qu'on a vu, c'est une croissance de la bureaucratie, une croissance des structures gouvernementales. Voyez le paradoxe. C'est ce gouvernement qui arrive avec un autre cheval de bataille, les contrats informatiques 2018, là, la main sur le cœur. Nous autres, on va vous régler ça. On va être les shérifs des contrats informatiques. On va être les shérifs de l'administration gouvernementale. Ils ont créé un nouveau ministère, une nouvelle structure avec une nouvelle bureaucratie pour gérer des contrats informatiques. Puis regardez ce que ça donne. Ça donne le scandale Saclic qui a coûté 1,2 milliard de dollars aux Québécois. Donc, sur le plan politique, je pense que c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose, ce qu'on a vu hier. Puis les Québécois, je pense qu'ils le disent, la cause est entendue. Jean Talon, Terrebonne, Arthabaska, donc ça fait 3 fois qu'ils se prononcent. Sur le plan humain, quand même, je veux le mentionner aussi. Hier, moi, j'étais à l'Assemblée nationale pour d'autres raisons. On sentait la fébrilité, puis il y a des collègues, ce sont des collègues de l'Assemblée nationale qui ont eu des mauvaises nouvelles, puis on pense à eux. Puis il y a des collègues qui ont des nouveaux mandats, puis on leur souhaite vraiment la meilleure des chances, parce que à la fin, ce qu'on veut, c'est que le Québec réussisse. Puis on veut toujours que ça aille mieux pour le Québec. Là, il n'y a personne qui veut la politique du pire.
Dans les ministres peut-être déçus, vous êtes face à une coalition des gens qui viennent de tout acabit et de tout parti auparavant. Peut-être que vous allez aller piger là-dedans. Ce sera une question pour la suite des choses. Mais vous êtes bien placé, M. Paradis. Vous êtes au Parti québécois. Vous êtes arrivé. On vous a mis beaucoup de dossiers entre les mains. On vous a demandé de les éplucher et d'apprendre rapidement. Voyez ce remaniement ministériel-là comment? Est-ce que c'est trop court la phase qu'ils ont pour essayer de brasser les choses? Est-ce que ça sert à rien officiellement d'avoir changé les gens puis de leur demander d'apprendre tout de suite, vous qui avez passé par là dans les derniers mois?
Si ce n'est que de la communication et si c'est un exercice politique, ça ne changera pas grand-chose. Ça ne changera pas grand-chose dans la capitale nationale, ça ne changera pas grand-chose au Québec. Et pour l'instant, quand on écoute ce que le premier ministre a dit hier, je comprends qu'il va avoir un discours à la rentrée le 30, etc. Mais hier, il devait il a des mots qui disent oh, des grands changements, mais c'est la même chose. C'est le même gouvernement avec les mêmes recettes, les mêmes façons de faire. Alors, si c'est ça, oui, c'est un coup d'épée dans l'eau, puis c'est un exercice de communication. Pensez-y. Ça va comme c'est mené. Ce remaniement-là, chose très rare, a été annoncé 2 mois à l'avance. 2 mois à l'avance. Est-ce que c'était dans l'intérêt du Québec de faire ça ou c'était dans l'intérêt de la CAQ? Est-ce que ce remaniement-là, il est dans l'intérêt du Québec ou il est dans l'intérêt de la CAQ? C'est parce que la CAQ voit très bien où elle se trouve dans les sondages et c'est de ça dont on parle. Comme plusieurs, j'ai vu beaucoup de dossiers importants pour le Québec qui ont été mis sur la glace. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'incertitude sur qui va être le ou la ministre dans 2 mois. Puis là, les fonctionnaires, c'est la même chose, disent « bon, on ne peut pas avancer ». Donc, il y avait beaucoup de choses à faire avancer pendant 2 mois, mais on était concentré sur les intérêts de la CAQ. Alors, je ne pense pas, malheureusement, que ça va donner grand-chose, ce à quoi on assistait hier.
Mais en même temps, les humains qui se retrouvent sur certaines chaises avec certains portefeuilles, ça fait une différence. Par exemple, on a un nouveau ministre de la Capitale-Nationale. Est-ce que vous pensez vraiment que ça va être du pareil au même ou ça peut avoir un impact? Vous avez connu M. Simard, vous l'avez fréquenté à l'Assemblée nationale, il était président de commission parlementaire notamment. Vous ne pensez pas que ça peut apporter une nouvelle dynamique dans la région?
C'est ce que je disais tout à l'heure. Dans l'intérêt du Québec, dans l'intérêt de la Capitale-Nationale, c'est ce qu'on souhaite. Puis d'abord, je souhaite un bon mandat. Je souhaite la bienvenue à Jean-François Simard, qui, vous l'avez dit, là, est un homme qui, je pense, a la capitale nationale à cœur. Ça, c'est très clair. Tout comme Jonathan Julien, d'ailleurs, je veux le remercier pour ses années à la tête de la capitale nationale. Il arrive au transport, donc on n'a pas fini avec lui dans la capitale nationale. Mais je veux le remercier quand même. C'est des gens qui ont la capitale nationale à cœur. Mais est-ce qu'on va vraiment avoir une nouvelle vision? Est-ce qu'on va parler de ce dont on devrait parler dans la capitale nationale? Je ne pense pas parce qu'on a 7 ans de bilan. C'est bien beau de vouloir être jugé sur des intentions, mais là, on a 7 ans de bilan dans la capitale nationale. Est-ce que le gouvernement de la CAQ nous a mobilisés dans la capitale nationale? Non. On a fait du surplace dans le projet locomotive qui est celui du transport structurant. Dans les infrastructures, qu'est-ce qu'on a annoncé dernièrement? C'est des projets qui étaient importants pour la capitale nationale qui ont tous été mis sur la glace. La tête des ponts, la phase 2 de la tête des ponts. Puis là, vous savez que les travaux actuellement, là, c'est dans ma circonscription, c'est en train de causer de très graves problèmes pour les
Pascal
commerçants.
Oui, Pascal nous a fait un excellent dossier hier, justement, avec les commerçants.
C'est très difficile, mais là, il y a une phase 2 à ça, a été mis sur la glace. Les voies réservées ici pour alléger la circulation puis faciliter le transport. Les gens qui sont en voiture, on veut alléger leur vie puis on veut faciliter le transport en commun pour les gens de la Couronne-Nord sur la glace. Le pont à étagement ici dans le Bourgneuf, pas loin d'ici, mis sur la glace. Ça commence à faire beaucoup. Et comptez, je termine là-dessus, mais il y en aurait tellement à dire, c'est comment tu vois la capitale nationale?
Ben,
comment tu la considères?
C'est qu'on parle juste de transport, on dirait. Sur quoi le gouvernement et M. Simard devraient travailler dans la prochaine année pour la région, à part le transport?
La capitale... Bon, d'abord, la capitale nationale, il faut la voir comme l'endroit qu'on considère comme la capitale nationale. Et là, on parle d'un gouvernement qui a tenu à peu près toutes les dernières rencontres politiques et diplomatiques importantes ailleurs qu'à Québec. C'est pas juste que, une fois de temps en temps, il s'est échappé. C'est devenu une habitude. Puis là, les gens vont dire, bien, c'est pas vraiment important. C'est important. C'est la vision que tu as de la capitale nationale. Alors ça, c'est un symbole fort. Et ça vient aussi avec toute une autre vision. Vous avez en matière d'habitation, en matière de logement, en matière d'économie, parce qu'il y a un écosystème économique très fort à Québec. 25 ans de croissance continue. Avec des experts qui disent que c'est le tigre économique du Canada. Puis là, soudainement, depuis 2 ans, c'est un peu moins évident.
C'est de la faute de la CAQ, ça, ou du maire Marchand?
C'est pas une question de dire c'est de la faute à qui, mais on a un dynamisme économique très fort à Québec qui compte sur, d'abord, une capacité d'innovation très forte, un capital social, un capital économique très fort. Mais là, actuellement, on a besoin de projets porteurs, on a besoin d'une vision, on a besoin d'être mobilisés. Et qu'est-ce que les gens consultés disent? Les entrepreneurs, notamment, les organisations à Québec disent, bien là, on ne sait pas où est-ce qu'il veut aller, ce gouvernement-là, puis on n'a pas été mobilisé. Puis il y en avait un projet qui est porteur, puis il est toujours là. Puis c'est celui, notamment, d'un réseau de transport collectif structurant. Puis quand on dit structurant, c'est parce que c'est pas juste des transports, c'est une vision de comment on voit l'avenir de notre capital national. Donc, c'est qu'est-ce que tu veux imprégner comme vision économique? C'est quoi tes secteurs forts sur lesquels tu veux miser? Puis je vous ramène à il y a quelques années, quand il y a eu des gouvernements du Parti québécois. Là, regardez aujourd'hui là, tout le secteur de la biochimie, tout le secteur de la nouvelle économie, des jeux vidéo, puis tout ça. Ça, c'est un gouvernement du Parti québécois qui est arrivé, qui a dit « L'avenir est là ». C'est encore embryonnaire, mais là, on est capable de devenir parmi les meilleurs au monde. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment on sait le faire au Québec? Comment on sait le faire à Québec? On est devenu parmi les meilleurs au monde.
Je vous amène sur un autre terrain de jeu parce que je cherchais votre chef aujourd'hui, puis j'ai fait « Hein? » J'ai regardé sur son GPS, il est en Alberta.
Ouais.
Qu'est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon est allé faire en Alberta? Est-ce qu'on est en train de s'associer avec les grands pétroliers pour le référendum?
Le Parti québécois a toujours été un parti très soucieux de la diplomatie internationale du Québec. J'utilise le mot, hein, vous le voyez sourire. Mais oui, c'est sûr que nous, on voit le Québec comme un pays. C'est notre ambition. D'ailleurs, mm-hmm. ça fait partie de nos ambitions pour la capitale nationale. On veut en faire une véritable capitale internationale, bien sûr.
Parfait. Mon collègue Max Laroche aurait été déçu si je n'avais pas posé la question.
Ben, non, c'est vrai. On s'était dit que ça va revenir.
Dans la tradition... Le premier mandat.
Dans le premier mandat, okay, vous savez, parfait. On garde le cap, c'est ce qu'on a dit, c'est le temps qu'on se pose ces questions-là. Je vous l'ai mentionné à quelques reprises, hein, pensez-y. Dans quelques années, tous les Québécois en bas de 50 ans se seront jamais prononcés sur l'avenir du Québec, puis ça touche toutes les questions.
Mais donc, pourquoi l'Alberta? Si le référendum est majoritaire?
Comment?
Si le référendum est majoritaire?
Ah, mais on organise un référendum pour le gagner, ça c'est sûr. Et les Québécois et les Québécoises vont être prêts à dire oui. Parce qu'ils voient très bien ce qui est en train de se passer dans cette fédération. Ils voient très bien ce que le Québec a comme capacité,
alors, c'est oui,
ce qu'on peut accomplir.
Pour finir la parenthèse sur le référendum, si c'est un oui majoritaire, l'engrenage, vous y mettez du gigolo puis on avance?
Ça a toujours été ça. Si les Québécois disent oui...
Vous savez pourquoi on le répète, vous êtes en avance dans les intentions de vote, puis c'est quand même le point crucial pour bien des électeurs d'un choix ou non par rapport au Parti québécois. Mais c'était juste pour ça qu'on finissait la parenthèse sur le référendum.
C'est ce qu'on dit qu'on va faire, et c'est ce qu'on va faire. Et Paul Saint-Pierre Plamondon est en Alberta parce que il n'y a pas seulement au Québec où actuellement les gens voient les dysfonctionnements du régime fédéral, voient les abus du régime fédéral.
Ouais, le régime fédéral en Alberta là, qui était pour un référendum, là, qui était pour la souveraineté, je vais le dire comme ça, de la province de l'Alberta.
Et en Alberta, ça peut être pour des raisons différentes, bien sûr, mais il y a quelque chose de commun, c'est de dire, là, on a des récriminations communes vers un régime fédéral, d'abord qui ne respecte plus du tout ce qui était le pacte en 1867, là, ce qui était écrit dans la Constitution. Le gouvernement fédéral, ça fait longtemps qu'il a mis ça un peu là, dans un tiroir puis qu'il fait comme si ça n'existait pas. C'est un gouvernement, d'abord, qui taxe énormément, qui coûte très cher, qui a grossi, qui a mis les mains dans à peu près toutes les juridictions du Québec et des autres provinces et qui livre très peu de services puis qui a très peu de résultats. Donc, il y a des éléments dont on veut dialoguer avec les gens en Alberta. Il y a un mouvement indépendantiste aussi, qui commence à faire beaucoup de bruit en Alberta. Donc, c'est un dialogue. Et Paul, au moment où on se parle, je pense que Paul est en train de faire son allocution là, à l'Université d'Alberta.
Je termine avec une fameuse question qu'on entend régulièrement et qui apparaît toujours par texto lorsque vous présentez au micro. Puis merci d'être présent pour nous. Qu'est-ce qu'on fait avec la péréquation si on est indépendant?
Bon, d'abord, c'est un mythe que le Québec est dépendant d'une espèce de fonds fédéral pour survivre, c'est un mythe. D'abord, le montant il est toujours grossièrement exagéré par les gens qui pensent qu'on ne dépend que de ça. Dites-vous aussi que c'est un fonds auquel on contribue, hein, donc qui est, par nos taxes, par nos impôts, et dont les effets sont largement compensés par toutes sortes d'économies qu'on va faire, ne serait-ce que dans le sujet dont on vient de parler. Ça, c'est un mot qui est devenu presque un cliché, là, mais les fameux chevauchements. Le gouvernement du Canada, là, qui est toujours en train de refaire ce qu'on fait déjà au Québec, puis qui vient se mêler de nos affaires, puis qui embauche des milliers de fonctionnaires, en santé, par exemple. Il y a des milliers de fonctionnaires. Savez-vous combien il y a d'hôpitaux à Ottawa? Là? Il y a un hôpital militaire, je pense, ou deux hôpitaux militaires. Ça nous coûte
fait que
des
ça serait
milliards.
Là, ça serait à cet endroit-là le gain.
Donc, relisez le splendide document sur le Québec, sur les finances d'un Québec souverain qui démontre tout ça. C'est une centaine de pages, 6 économistes qui sont pas liés au Parti québécois. On dit, hey, ça tient la route. Puis c'est la septième fois qu'on démontre que le Québec indépendant serait non seulement viable, mais serait prospère. La dernière fois, c'est François Legault lui-même qui avait dirigé cette étude-là. Et souvenez-vous, il y a eu à l'Assemblée nationale une motion unanime qui était adoptée par tout le monde. Le Parti libéral du Québec a voté pour ça, là. La CAQ, Québec solidaire et nous, on a voté pour ça. Puis ça dit, sur le plan économique, le Québec a tout ce qu'il faut pour être un pays. Donc, cette partie-là du débat, là, faut arrêter de penser qu'on dépend du Canada. On envoie 82 milliards de nos taxes et impôts à chaque année à ce gouvernement-là pour à peu près aucun service. Pour un gouvernement qui nous endette avec une carte de crédit, là, c'est le party, le bar ouvert depuis des années. C'est le temps de sortir de ce régime-là pour être plus prospère comme pays.
Pascal Paradis, merci beaucoup d'avoir été avec nous en ondes ce midi. Je vous souhaite une bonne rentrée parlementaire le 30 septembre. Puis entre-temps, bien, de bien travailler dans votre circonscription. Il y a des restaurateurs qui ont besoin de vous, il n'y a pas de doute à la tête.
J'y vais de ce pas d'ailleurs.
Excellent, merci beaucoup pour votre présence. On fait une courte pause à Boulevard 101 et par la suite, on revient avec le caucus Iaccarini. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 101, c'est On en jase.
Jusqu'à 14h, on en jase. Boulevard 102.1 t'accompagne maintenant en semaine avec une programmation 100% parlée.
100% talk.
Ça parle de quoi?
De l'actu, du sport, des élections, du showbiz. Il se passe de quoi? Vous allez le savoir en premier. Il se passe rien? Vous allez le savoir aussi. Boulevard 102.1.
Ah, il fait soleil aujourd'hui. C'est une magnifique journée. C'est un jeudi qui, des fois, ben, nous permet de couper la semaine à 12h20, où je vous envoie au Maurice. Là, vous avez votre petit sandwich au ballonnet, au jambon, les restes de la semaine. Vous êtes tanné, ça ne vous tente pas. Vous avez un client à sortir, tout simplement envie de partir entre collègues, prendre un petit verre de vin là, sur l'heure du midi. Le Maurice vous attend, la plus belle terrasse de Grande Allée, super grande, avec ou sans réservation. Vous avez de la place. Puis sinon, ben, pour souper, peut-être que vous allez être un peu moins pressé, puis c'est ça qui vous tente le plus. Mais la carte des vins qui a été travaillée, les cocktails aussi, qui sont là avec leur grand classique ou un petit peu plus funky. Puis certainement, ce qu'on vous propose à manger, bien, ça passe d'une assiette à une autre, de l'entrée au dessert, avec des plats soigneusement cherchés, travailler, des produits d'ici, c'est goûteux, puis on change la carte aussi au gré de ce qu'on a envie de vous proposer, mais qui va satisfaire tout le monde, même les becs fins vont trouver leur compte au Maurice, avec ou sans réservation, je le répète, hein, si vous cherchez un endroit, vous dites, ah, ça va être plein, avec ou sans réservation, au Maurice, c'est grand, à l'intérieur et à l'extérieur, on vous y envoie sur Grande Allée.
Les 27 et...
Le caucus Iaccarini. C'est décalé pour notre entrevue avec Pascal Paradis. Il est exactement 12h24. Je vous rappelle, téléchargez notre application BLVD 101 sur le App Store, sur Android et également avec votre haut-parleur intelligent ou Alexia, vous n'avez qu'à dire. Écoutez BLVD et vous arrivez directement sur BLVD. Pour réagir, 418-971-102. Antonine, ça fait toujours réagir quand on parle de souveraineté.
Ah, toujours.
Ça parle de péréquation, ça parle de est-ce qu'on va développer nos ressources naturelles. J'aime ça, les gens aiment leur Québec et veulent voir un Québec prospère. Donc, merci infiniment de réagir. 418-971-102. Qu'est-ce que tu as pensé de notre ami Pascal Paradis?
Ben écoute, je trouve que le PQ a une meilleure posture par rapport au remaniement. Critique et tout ça, mais notamment pour la région, parce que moi, c'est un des éléments qui, évidemment, m'intéresse le plus. Je regardais un peu la réaction de Québec solidaire. On a des députés de QS aussi dans la région. Puis je trouvais qu'on ne se mettait pas beaucoup en mode collaboration. Puis je le sais, là, que c'est correct, il faut faire de la politique, il faut critiquer, les oppositions sont là pour ça. Mais moi, je suis un peu tannée quand même dans la région de Québec. On dirait que on rame jamais tous dans le même sens. On peut pas ramer dans le même sens sur tout le temps. Moi, la transpartisanerie, ça a ses limites, puis c'est bien correct. Mais on a l'impression de stagner des fois à Québec, puis que finalement, tout le monde est très polarisé. Mais ça serait le fun des fois d'avoir certains éléments, des projets sur lesquels on a une vision commune, puis qu'on va dans le même sens.
Sur le 90 députés de la CAQ qui l'ont remonté à tête.
Jusqu'à 14h, on en jase.
On en jase.
Qu'est-ce qui se passe là? Sais-tu justement le 90 députés de la CAQ qui l'a remonté à la tête puis on décide de pas travailler en équipe, comme on voyait à l'époque justement avec Agnès Maltais, Amamad, Gérard Deltel?
Ouais, mais c'est sûr qu'avoir un gouvernement super majoritaire, ça peut avoir un peu cet effet-là, des fois un peu d'arrogance peut-être, c'est possible. Mm-hmm. Mais moi, j'y vois plus en fait un changement du paysage politique. Parce qu'à l'époque où c'était PQ, PLQ, ben
les dossiers de la région, c'était pas là-dessus qu'on se coltaillait là, au PQ puis au PLQ. On se coltaillait sur la question nationale, ouais. sur la langue, etc. Mais pas sur l'habitation puis la couleur du tramway. Là. Alors que là, ben, on a un paysage politique plus morcelé avec Québec solidaire et la CAQ, donc des partis qui sont pratiquement aux opposés, avec un maire de la ville qui s'entend pas toujours super bien avec le gouvernement. Donc, c'est plus une question de dynamique partisane, j'ai envie... dire. Puis aussi, les municipalités de nos jours s'occupent de toutes sortes de dossiers qui dépassent un peu simplement la gestion municipale.
Bien, en effet, on a déjà pensé au changement itinérant, changement climatique où on demande de l'argent pour les infrastructures.
Fait que c'est des occasions supplémentaires de ne pas être d'accord.
Ouais.
Et on dirait que ça a eu cet effet-là. Puis c'est vrai qu'on est peut-être un peu nostalgique d'une époque avec sa maman d'Agnès Maltais, là, où est-ce qu'on on met tout ça rose parce que plus les années passent...
Oui, c'est ça. C'était-tu si collaboratif que ça? C'est ça, là.
Mais là, on est quand même dans les dernières années dans une dynamique qui est plus polarisée à Québec.
Exactement. Hey, parlons du remaniement ministériel d'hier. Bon, Pascal Paradis vient de nous dire une grosse mascarade de communication. Honnêtement, je suis d'accord avec lui. Il y a quand même des gagnants et des perdants. Puis moi, ma grande surprise, c'est Jonathan Julien.
Il y a eu une promotion.
Qui était tout feu, tout flamme. C'était l'homme le plus heureux de la CAQ hier. J'ai regardé le remaniement ministériel. Ça te surprend, cette promotion-là?
Bien, d'abord, il faut se rappeler que dans le premier mandat, Jonathan Julien avait quand même un gros dossier. Il y avait énergie et ressources naturelles. Maintenant, ressources naturelles, c'est plus petit parce qu'on a enlevé l'énergie. Mais c'était un gros dossier qu'avait Jonathan Julien, somme toute. Deuxième mandat, il avait demandé à avoir les infrastructures. C'est quelque chose qu'il voulait avoir, mais cela dit, c'était un plus petit dossier auquel on a ajouté la capitale nationale. Donc, finalement, là, on s'en va au transport, mais on n'a plus la capitale nationale. Donc, oui, c'est un plus gros dossier, mais on a perdu un morceau quand même. Donc, finalement, j'ai comme l'impression qu'il suit une ligne plus linéaire, plus horizontale, Jonathan Julien. Mais il n'a pas été puni, en tout cas. Ça, c'est sûr. On n'a pas décidé de le sortir du Conseil des ministres, comme ça a été le cas, par exemple, pour François Bonnardel. Du côté des gagnants, France-Hélène Duranceau.
Clairement.
Ministre de l'Habitation.
Hey, mais attends une minute, là. France-Hélène, attends. Si tu souviens, France-Hélène?
Président du Conseil du Trésor. Je me retiens pour pas faire une blague.
Il aurait dû s'en tenir.
Et pas dire qu'on
n'appellera pas Cruella, non. Va être en charge. Non, sincèrement, on enchaîne.
Là. Oui, on enchaîne.
Il
François, on enchaîne.
Mais
François
là,
ça lui-même.
C'est fini, là. Les caricatures, les oppositions vont pouvoir utiliser ce mot-là. Veux-tu bien me dire pourquoi le PM a dit ça?
Je sais pas. Des fois, il pense à haute voix, puis là, on est à la radio, alors on peut pas vous mettre le visage de France-Hélène Duranceau. Je vais vous le décrire. Sourire malaisé et yeux très, très ronds, là, voulant dire vraiment?
Je me suis rendu là moi-même.
Ah, ouais, puis on entend... vraiment le malaise aussi là, dans l'extrait.
On entend le malaise, il faut le faire quand même.
Oui, et on s'entend, là, c'est 87 personnes de la CAQ qui sont assises dans la salle et ils ont un malaise.
Oui, il y a eu des malaises. J'ai reçu beaucoup de textos à cette minute-là. Cela dit, c'est une promotion pour France-Hélène Duranceau que moi, jamais je n'appellerai Cruella. D'ailleurs, je trouve ça sexiste comme terme.
Clairement.
Est-ce que vous avez déjà entendu ça un personnage comme oncle, ça là. Qui a été accolé à un homme? Mm-hmm. Non, je n'ai jamais vu ça. Donc, on ne l'appellera pas comme ça ici. Sauf que c'est lié... En fait, cette promotion-là est importante pour France-Hélène Duranceau parce qu'après le remaniement, le premier ministre a fait un discours dans lequel il a établi des nouvelles priorités. Oui. Je le mets entre guillemets nouvelles parce que effectivement, M. Paradis tantôt nous faisait remarquer que c'est des choses notamment qui avaient été dites en 2018 et je ne suis pas en désaccord avec lui, mais peut-être qu'on s'éparpille un peu moins. Et un de ses champs d'action, c'est l'efficacité. On veut sortir de la camisole de force dans laquelle on est encarcané au Québec.
Oh, rien de moins que sortir du système actuel, sortir de cette camisole de force, ça veut dire qu'il faut couper profondément dans la bureaucratie. Ça nous prend un traitement choc. Il va falloir que chaque ministère fasse le ménage dans sa bureaucratie.
Retour vers le futur. On est en 2017-18, ça, quand François Legault dit ça.
Oui, puis même en 2003, réingénierie de l'État, Jean Charest, ça revient régulièrement.
On dit... Parce que, tu sais, moi, je regarde ça, puis je me dis, comment croire François Legault que lui-même crée cette camisole de force-là?
Oui, parce qu'on peut lui reprocher d'avoir ajouté certaines bureaucraties lui-même dans certaines priorités, mais en même temps, je vais combattre un peu le cynisme aujourd'hui. François Legault, il a des obsessions. Okay? C'est un député, un élu, un politicien qui est là depuis longtemps dans le paysage politique. Puis je vais vous dire, casser les syndicats, notamment, ça fait partie de ses obsessions personnelles. Est-ce que des fois, il y a eu des compromis? Est-ce qu'il y a eu d'autres priorités à d'autres moments? Oui, mais je le crois sincère quand il parle de vouloir sortir du carcan. Mais
là, on l'écoute sûr... encore sans les syndicats, il y en a parlé.
Sortir de ce système, ça veut dire aussi qu'on va devoir avoir le courage de moderniser le régime syndical.
Le courage de moderniser le régime syndical. Puis là, je ne l'ai pas fait jouer au complet, mais on continue en disant les médecins, c'est la guerre aux médecins. C'est pas vrai que les omnipraticiens et les spécialistes vont gagner. C'est nous autres, la CAQ.
Oui, puis encore une fois, pour combattre un peu le cynisme, puis quand même donner ce qui revient à César, il y a eu des projets de loi aussi récemment limitant le droit de grève. Donc ça, c'est quelque chose de concret qui a été fait par le ministre du Travail, Jean Boulay. Donc dans ces quatre champs d'action, l'économie, c'est une autre obsession de François Legault. La vision qu'il a apportée, c'est sûr que c'est entaché par le projet Northvolt, mais ça demeure, ce qui garde François Legault réveillé la nuit, c'est... ça, c'est l'économie, réduire l'écart de richesse avec l'Ontario. Il est sincère là-dedans. Après ça, dans les manières de faire, on peut évidemment en débattre. Un autre pan important, puis qui est un peu nouveau, c'est celui de la sécurité. D'ailleurs, on avait Pascal Paradis avec nous tantôt. Le PQ en parle beaucoup, hein? Notamment Paul Saint-Pierre Plamondon, dont la circonscription est à Montréal, a fait plusieurs sorties sur les armes à feu, les gangs de rue, l'espèce de sentiment d'insécurité. Et là, c'est un autre des gagnants du remaniement qui va être en charge de tout ça, Yann Lafrenière, qui était ministre des Affaires autochtones et qui maintenant récupère en plus la sécurité publique. Il est allé shipper à François Bonnardel, ce pauvre diable.
Mais lui, c'est mérité parce qu'avec les relations autochtones, il a fait un travail remarquable. Donc, tu sais, moi, quelqu'un qui a bien travaillé, qui a une récompense, je n'ai rien contre, là.
Oui, puis même quand il n'était pas encore ministre des Affaires autochtones, parce qu'il faut se rappeler, il a remplacé Sylvie Damour.
T'as raison.
Qui s'était brûlé auprès des Premières Nations. Il avait mené un projet de commission spéciale sur l'exploitation sexuelle avec d'autres députés puis de d'autres partis très transpartisans aussi. Et c'était un exemple, je trouve, d'accomplissement concret que des députés non-ministres sont capables, une fois de temps en temps, de faire. Tu sais, quand on parle de valorisation du rôle de député, là, tout le monde veut rentrer au Conseil des ministres. Là, on était vraiment là-dedans cette semaine. Mais il y a des députés qui se démarque par certains projets. Et Yann Lafrenière a vraiment monté l'échelle une marche après l'autre comme ça. Donc, Yann Lafrenière qui sera en charge de sortir des mesures concrètes pour combattre justement là, les phénomènes qui font monter le sentiment d'insécurité au Québec. C'est un phénomène qui est, j'ai envie de dire, d'un océan à l'autre au Canada. Là, c'est pas unique au Québec. Le Québec demeure un endroit quand même, somme toute, assez sécuritaire, un taux d'homicide qui est assez bas et tout ça. Mais on a quand même des drapeaux rouges, circulation d'armes à feu, des violences, notamment chez les mineurs. On parle des gangs de rue beaucoup. Pas facile à gérer comme société là, quand on a des mineurs qui commettent des crimes. Donc, moi, je vais être vraiment tout ouïe pour entendre les propositions de tous les partis pour un enjeu qui est hyper important. Puis je pense que ça peut être payant politiquement aussi.
Clairement. Bernard Drainville a fait un grand exposé sur ses médias sociaux 4 heures avant d'être nommé ministre de l'Environnement en rappelant les 6 grandes réalisations qu'il a faites dans le domaine de l'éducation. Ça lui a valu beaucoup de sarcasme dans les commentaires. Sonia Lebel est une gagnante et je crois que Sonia Lebel est accueillie à bras ouverts par le secteur de l'éducation. Je me trompe?
Les ministres d'éducation l'ont toujours difficile. On s'entend, c'est pas un réseau qui est facile. T'as des syndicats qui sont très revendicateurs. Cela dit, il donne la chance à la coureuse. Moi, je pense que c'est toujours l'attitude à adopter. Parce que si tu tires déjà sa personne avant qu'elle aille ouvrir la bouche, quelle crédibilité tu as dans le débat public par la suite. Donc, bravo pour ça. Donc oui, Sonia Lebel qui a eu une promotion. Bernard Drainville, c'est pas une promotion de se retrouver à l'environnement. Par contre, avec le discours du PM hier, j'ai compris un peu mieux pourquoi il se retrouvait là. C'est tout dans la question de l'efficacité, notamment des autorisations environnementales.
Il y a un effort particulier qui doit être fait dans un ministère qui est assis juste à côté de la présidente. C'est dans l'environnement. Bloquer le développement avec des délais qui n'ont pas de bon sens, qui sont interminables. Donc, le nouveau ministre...
Alors, Bernard Drainville a vraiment, mais vraiment, cette responsabilité-là de dire « on va plus vite ». Puis moi, je veux qu'il va avoir la responsabilité aussi de mettre fin là, à cette échéancier-là, serrer des véhicules électriques. Là.
Probablement. Puis dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on embarque dans le train Carney. Là. C'est aussi ce phénomène au fédéral. On est dans cette même foulée-là.
On est dans le caucus Iaccarini avec Antonine Iaccarini. Normalement, c'est du lundi au jeudi à midi. Aujourd'hui, on a eu la visite de Pascal Paradis à midi, donc on l'a fait de midi 15 à midi 45. Geneviève Guilbeault, tu la mets dans les perdantes et parmi celles et ceux qui sont attendus de pied ferme, je laisse entendre Guillaume Tremblay, président de l'Union des municipalités du Québec. Tu vois que Geneviève Guilbeault apporte pas avec un préjugé favorable.
Ben disons, c'est une nouvelle qu'on avait vue depuis quelques jours là, dans les médias. Maintenant, on se mettra pas la tête dans le sable. Le monde municipal avec Mme Guilbeault, on a eu quelques dossiers un peu épineux dans les dernières années. Maintenant, on va donner la chance au coureur puis on va essayer de voir la chose de façon optimiste et on souhaite ardemment d'avoir une collaboration essentielle avec la ministre des Affaires municipales.
Avec Mme Laforêt, ça allait bien?
Ça allait très bien avec Mme Laforêt. Honnêtement, on sentait vraiment une écoute exceptionnelle. Des fois, elle ne pouvait pas toujours répondre oui, mais elle avait toujours on était toujours en mode solution avec Mme Laforêt. Puis c'est ce qu'on souhaite justement avec Mme Guilbeault à cet égard.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que Geneviève Guilbeault leur a brassé la cage pas à peu près que le financement des sociétés de transport. Fait qu'il n'y a pas un maire ou une mairesse au Québec présentement qui se réjouit de ça. Là.
Ben, le message qui est envoyé par Guillaume Tremblay, c'est écoute et mode solution. Hein? Moi, c'est ça que j'ai compris. Donc, c'est l'attente qu'on a. On était bien contents avec André Laforêt. On aimerait bien avoir de l'écoute et un mode solution aussi. Par contre, un petit mot sur Geneviève Guilbeault, son approche avec les municipalités. Elle a souvent fait des plaidoyers pour l'autonomie municipale. Mm-hmm. Donc ça pourrait être un point positif dans son approche. Je pense pas qu'elle va être quelqu'un qui va beaucoup empiéter et essayer de contrôler nécessairement les municipalités. Autre mesure, on verra bien. Ouais.
418-971-101 pour réagir avec nous, texto d'une enseignante. Elle a géré notre convention collective. Non, elle n'est pas la bienvenue par les enseignants. C'est en parlant de Sonia Lebel, évidemment, qui arrive à l'éducation. Hey, Pablo Rodriguez, il est donc bien hésitant, lui. C'est un chef ou c'est pas un chef, là? T'sais, il faudrait pas qu'il y ait d'élections anticipées. Parce que pas sûr que je vais être prêt. Qu'est-ce que t'en penses, Marois?
Vite, faut qu'on trouve des candidats
de coup. Des candidats. Puis Marois parle à ma place parce que ça va être mieux que si c'est moi qui parle. Ça ressemble à ça, Pablo Rodriguez.
Oui, par moment, un peu. Bon, écoute, le Parti libéral était en caucus cette semaine. Évidemment, leur caucus était complètement... Un caucus, c'est aussi une occasion de communication en passant. Puis on a toujours des petites annonces à faire. Mais là, c'était complètement éclipsé par le remaniement.
Tu dis.
On fait une annonce d'une escouade PME, puis ça passe complètement dans le dalou. Il aurait peut-être dû la remettre
à un
autre
moment.
Ouais,
puis quand je fais mon annonce comme ça, en disant, je vais créer Marois, qu'est-ce que je crée? Ah, les PME!
Ton imitation vaut 100$. J'ai même de la misère à me concentrer. OK, donc, Pablo Rodriguez a été questionné sur l'éventualité d'élections anticipées. Moi, il y a pas mal de monde qui me pose la question. Crois-tu à ce scénario? Pourrais-tu avoir des élections anticipées? Puis, je réponds la même affaire à tout le monde. Bof, ça m'étonnerait parce qu'on a une loi au Québec qui fait en sorte qu'on a des élections à date fixe, à part si on a un gouvernement qui est minoritaire. Donc là, je vois pas pourquoi on commencera à contourner cette loi-là puis à dire, ah ben là, si les sondages sont bons ou ben si j'ai peur d'être encore pire d'un sondage ou ben si mon leadership est... Non, on ne contourne pas la loi.
Oui, parce que j'ai besoin de cette loi-là pour devenir un chef crédible.
Il faut que t'arrêtes, je serai pas capable de finir. Donc, tout ça pour dire que Pablo Rodriguez n'était pas d'accord avec ça et je suis d'accord avec M. Rodriguez qu'on ne devrait pas avoir des élections anticipées. Par contre, quand tu es chef de l'opposition, que tu as des résultats de sondage qui sont encourageants comparés de l'an passé où les libéraux se mettaient pratiquement un sac en papier sur la tête là, quand on leur demandait c'était quoi leur formation politique, ben, je pense qu'il faut que tu montres que tu es... T'as le couteau entre les dents, que t'as pas peur.
Ben,
le recrutement doit être quand même pas pire en ce moment au Parti libéral. Imaginez la CAQ, comment ça va être plus difficile d'aller chercher
clairement
des candidats si jamais les...
Et Pablo aurait dû dire, je suis prêt, on fonce.
Je suis capable.
OK, c'est
donc, bon. Donc, le Parti libéral qui dit que... En fait, c'est Marois Risky, t'as tout à fait raison, qui a fait cette annonce-là. Donc,
ben oui.
C'est drôle de voir la dynamique entre les deux chefs. On dirait quasiment Québec solidaire avec les deux porte-paroles, un féminin, un masculin, qui a dit qu'on visait de trouver 50% des candidats d'ici Noël. Mm-hmm. Puis, trouver des candidats d'avance, ça peut avoir l'air facile, mais c'est quand même difficile parce que, disons-le, vous, là, à la maison aujourd'hui, là, vous annoncez à votre employeur que vous allez être candidat en 2026. Bien, votre employeur, est-ce qu'il va vraiment vraiment être à l'aise avec ça? Est-ce que ça peut vous nuire professionnellement? Est-ce que lui, il veut que, je ne sais pas, dépendamment du poste que vous occupez, c'est pas tout le monde qui peut s'annoncer énormément d'avance.
Du tout, Claude Villeneuve nous en parle beaucoup là, pour les élections municipales, d'ailleurs. Je termine avec Mark Carney qui a fait des annonces de grands projets. Normalement, il y aura une conférence de presse qui devrait se faire aujourd'hui. Parmi les grands projets, on a le terminal contre-cœur au port de Montréal, mais il n'y a pas d'autres projets, là, sauf erreur, là, du Québec. Là. Donc, c'est vraiment minime là, l'impact sur le Québec.
En fait, c'est le niveau d'avancement des projets qui fait en sorte aussi là, que ça se retrouve sur la liste des grands projets d'intérêt national, ceux pour lesquels on peut contourner toutes les lois là, grâce à la nouvelle loi C5 et aller plus rapidement, comme c'est la thématique un peu partout à travers le pays. 5 projets, dont 2 qui se trouvent en Colombie-Britannique. Il y en a en Ontario aussi. C'est des mines. On a un projet nucléaire aussi en Ontario, projet de gaz liquéfié et un projet au Québec, celui de Contrecoeur. Bon, sur 5 projets, qu'il y a un projet au Québec, ce n'est pas anormal, là, cela dit. Puis il y a d'autres projets qui sont dans la mire, mais qui sont un peu moins avancés. Puis on peut penser notamment au train haute vitesse, le TGV, qui nous touche ici parce qu'évidemment, ça va être un trajet de Québec jusqu'à Toronto. Mais tout ce qui est les autres projets, on a vu un nouveau GNL qui voulait peut-être s'installer, l'entreprise Marine Vest, mais ce n'est pas assez avancé pour se retrouver sur cette liste-là. Je sais qu'il y a des discussions en ce moment, il y a des rencontres, l'entreprise qui rencontre toutes sortes d'acteurs clés et qui aimerait bien se retrouver sur la liste des grands projets, mais ce n'est pas encore assez avancé.
Et là, cette loi-là, la loi C5 pour faire avancer les grands projets, et on termine avec ceci, Antonine, dans le caucus Iacarini, qui va se retrouver là, justement là, devant les tribunaux au Québec.
Oui. Déjà, la loi C5, adoptée à toute vitesse pendant la courte session parlementaire du printemps et sous bâillon, ça avait brassé beaucoup avec, pas les oppositions, parce que les conservateurs l'ont appuyé, mais avec les communautés autochtones, les nations autochtones à travers le pays qui trouvaient qu'ils se faisaient passer sous le corps avec ce projet de loi-là. Ils étaient très, très fâchés pour plusieurs d'entre eux. Puis Marconi a passé des mauvais quarts d'heure là, dans ses rencontres avec les communautés autochtones justement à cause de ça. Mais maintenant, on a aussi une poursuite. Donc, le Centre québécois du droit de l'environnement qui dépose un recours devant la Cour supérieure pour contester la validité de la loi. On dit que ça contourne trop de lois. Mm-hmm. Ça va empiéter sur les lois environnementales du Québec. Donc, déjà que ça brassait avec les Autochtones, là, évidemment, les écologistes vont,
exactement,
vont s'y mettre.
Ça va être intéressant de voir la suite avec ce qu'on a entendu de François Legault également dans son discours. Antonine Iacarini, je te souhaite un excellent week-end.
Merci.
On se revoit lundi prochain pour le caucus Iacarini. Merci beaucoup pour tes excellentes analyses. Je suis convaincu qu'on aura une excellente analyse également de la situation qui prévaut aux États-Unis parce qu'on s'en va immédiatement rejoindre Valérie Beaudoin, chercheuse associée Observatoire sur les États-Unis pour la chaire Raoul Dandurand. Valérie, comment vas-tu?
Ça va très bien. Ça va très bien, vous autres.
Mais ça va très bien. Merci beaucoup de collaborer à l'émission On en jase avec moi et Pascal CV. Valérie, je commence avec ça. Comment te sens-tu là, à la suite là, de cet assassinat là, de Charlie Kirk?
Ça, je pense, pour les États-Unis, pour les Américains, mais pour la planète en entier, quand on a vu les images qui donnent tellement froid dans le dos, puis ça, je le rappelle toujours, hein, si vous les avez pas vus, je vous conseille pas nécessairement non plus d'aller les voir.
Et vraiment pas, hein?
Comme en direct comme ça. Alors, il y a eu un élément de choc. Tu sais, c'est heureusement, on va dire, très rare de voir des situations comme celle-ci arriver. Alors, état de choc, c'est sûr. Et c'est surtout le mois l'après. Donc, si je peux me permettre juste de rappeler, c'est qui rapidement Charlie Kirk et pourquoi ça
ce
qui s'est passé. C'est que Charlie Kirk, c'était une figure très, très influente. C'était une rockstar de la droite aux États-Unis chez les jeunes. Il avait fondé une organisation qui s'appelle Turning Points quand il avait 18 ans. C'était un allié de Donald Trump, un ami. Et c'était quelqu'un qui, oui, avait des propos controversés, qui aimait beaucoup débattre. D'ailleurs, il était dans une université en Utah au moment où il s'est fait assassiner avec un segment qui s'appelle Prove Me Wrong. Alors, prouve-moi que j'ai tort, en discussion avec d'autres Américains. Fait que c'était un activiste aussi politique. On dit que c'est lui, l'architecte à peu près de la victoire auprès des jeunes lors de la dernière élection de Trump parce qu'il était dans tous les balados, sur toutes les plateformes, donc de 31 ans. Et comme je le disais, quelqu'un qui avait des propos très très à droite, des propos qui, par moments, étaient plutôt associés à l'extrême droite, mais quelqu'un qui débattait même avec des ennemis politiques. Et ça, je pense que c'était quand même une de ses forces. Il avait même été sur le au balado de Gavin Newsom, qui est le gouverneur démocrate de la Californie, pour aller échanger avec lui. Donc, voici un petit peu le portrait. Voici pourquoi ça fait autant réagir, parce que c'était une figure très, très importante. Ça représentait la jeunesse du mouvement MAGA, là, du mouvement Make America Great Again.
Il y avait l'esprit du débat, il y avait la valeur, mettons, politisée du débat, assurément. Mais là, en ce moment, ce qu'on voit, c'est un grand déchirement en deux facettes importantes des États-Unis, soit ceux qui sont un petit peu plus conservateurs dans les républicains, mais dans les démocrates. Mais les commentaires sont particuliers. Certains vont trouver un juste milieu en se disant, hey, là, franchement, là, de là à mourir pour ses idées, pour ses opinions. D'autres, ils vont avec l'ironie du sort de dire prôner un peu les armes, la façon d'être armé, tout ça, en mourir d'une arme comme du type sur lequel il prônait un peu la présence puis la sécurité aux États-Unis. Mais les deux clans sont très, très en opposition. Ils sont en train de se chicaner. Ça crée une grande déchirure, encore plus importante que ce qu'on voyait aux États-Unis. Ça, c'est-tu inquiétant?
Oui, c'est inquiétant. C'est très inquiétant. Puis je pense qu'hier, c'est vraiment, justement, là, pour pas faire de jeu de mots avec son organisation, je le fais naturellement, là, mais c'est un point tournant. Pourquoi? Parce que il y a eu la tentative d'assassinat de Donald Trump, hein, on le sait. C'était il y a un an, quoi, à peu près, là. Il y a eu ça. Il y a eu aussi des assassinats de démocrates au Minnesota. Une élue cet été avec son conjoint, tentative d'assassinat d'autres élus. Il y a eu des cocktails Molotov dans des maisons de gouverneurs démocrates. Il y a eu des républicains qui avaient été visés il y a quelques années en jouant au baseball. Il y en a plein comme ça, des événements. Et là, le problème, c'est que hier, il y a eu un discours, il y a une dénonciation, ça c'est la bonne nouvelle, des démocrates. Là, j'écoute à 90% plus, tout ce que j'ai vu, c'était... On a le droit de pas être d'accord, mais la violence politique, c'est pas la solution. Mais du côté de la droite américaine, bien sûr, on a dit que ça avait pas de bon sens. Non, il y a beaucoup de gens qui ont dit aussi, mais vous voyez, c'est la gauche qui veut nous tuer, nous éliminer. Et ça, ce que ça a amené comme mouvement depuis hier, et là, c'est pas généralisé, je suis pas en train de dire que c'est tout le monde qui est comme ça. Il y en a qui disent, ben, va falloir se défendre, va falloir mettre derrière, par exemple, les barreaux, les gens qui sont trop woke, qui ont des idées dangereuses. Il y en a qui disent qu'il faut s'armer, se protéger. Et c'est ça le danger d'un discours comme ça, de se dire, ben avec cet événement-là, ça veut dire qu'après ça, tous les gens qui pensent pas comme lui pourraient être assassinés. Alors, il y a vraiment un danger. Puis le président américain qui a pas aidé les choses avec une déclaration, parce que lui, bien sûr, il était très touché, hein, il était très près de la famille de Charlie Kirk. Elle a dit, ben c'est de la faute des médias, c'est de la faute de la gauche radicale. Il a donné des exemples de violence politique touchant uniquement des conservateurs. Je trouve qu'on a raté une occasion de dire, mais écoutez, ça n'a pas de bon sens ce qui vient de se passer. Mais si c'était quelqu'un aussi à gauche qui a été assassiné ou qui a eu des tentatives d'assassinat par le passé, ben ça n'a pas de bon sens non plus. Puis il faut baisser, comme on dit, la température. Faut justement calmer peut-être un peu les ardeurs de tout le monde, parce que il y a une escalade qui, en ce moment, pourrait être dangereuse. Puis je le souhaite sincèrement, là, qu'il y ait une espèce d'apaisement avec tout ça. C'est pas ce que je vois pour l'instant, mais je le souhaite quand même.
Valérie, en quelques secondes, crains-tu une montée de la violence aux États-Unis?
Oui, je crée une montée de la violence. J'essaie toujours de voir ça, de me dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit, hein, sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de dérives, de propos qu'on voit qui sont disgracieux de part et d'autre, mais que ça reste une minorité. J'espère plutôt qu'on va faire un examen de conscience et dire qu'on est déjà dans une société qui est très, très polarisée, et que là, en se mettant les uns contre les autres, ben, on est encore en train d'aller plus loin. Puis je salue justement les élus des deux côtés qui ont simplement dénoncé la violence politique, à quel point c'était terrible aussi pour une famille de voir le père de la famille mourait comme ça en direct à 31 ans. Donc ça, c'est vraiment ce que je souhaite. Il y en a de la division, puis on n'est pas, moi je suis pas dans l'analyse des propos de Charlie Kirk. Je suis plutôt en train de dire, ben écoutez, peu importe c'est qui, si on n'est pas d'accord, ben c'est pas la meilleure solution, parce que ça va être quoi la prochaine fois? Est-ce que ça sera Alexandria Ocasio-Cortez, qui elle est beaucoup plus à gauche, qui est opposée carrément à Charlie Kirk, qui pourrait elle être victime par, je donne un exemple de représailles, c'est pas ça qu'on souhaite. Alors espérons pour nos voisins américains qu'on aime pour le meilleur et pour le pire. Ça, c'est mon expression favorite dans les derniers mois, que ça se calme. Mais malheureusement, c'est pas du tout le ton que je vois là, sur les réseaux sociaux particulièrement, où on veut prendre le pouls là, de certaines personnes.
Valérie Beaudoin, je sais que tu es une femme très prisée. Alors, merci infiniment d'avoir pris ce temps avec nous aujourd'hui. Au plaisir de se reparler dans l'émission On en jase.
Ça fait plaisir. Bonne journée.
Merci beaucoup, Valérie. Alors, oui, Pascal, il faut craindre, malheureusement, la montée de la violence aux États-Unis. Oui,
puis un autre drame qui s'est déroulé aussi, qui fait partout parler sur les réseaux sociaux, celui de la jeune fille qui est décédée, qui s'est fait attaquer dans le métro au couteau. On aura peut-être l'occasion d'en reparler aujourd'hui.
Une jeune réfugiée ukrainienne.
Exact. Pure violence. Un homme qui était en psychose totale, qui pensait qu'elle lisait dans ses pensées et tout ça. On en parlera peut-être à la fin de l'émission.
Oui, je sais que tu as justement parlé avec un psychologue ou une psychologue là-dessus pour voir... C'est quoi que ça, pourquoi cet effet-là, justement?
Mais j'avais des questions. Je comprends qu'on a fui, figé, puis on a également foncé dans ce genre de situation-là comme possibilité de réaction. Mais je me demande, est-ce que c'est un courant sociétal ou c'est un courant individualiste de ne pas réagir également quand il y a quelque chose du type qui se passe? On en reparlera.
Ah oui, aux alentours de 13h30, on fait le tour de ceci. Certains, ça va être très intéressant. Pascal, nous, on aime gâter nos auditeurs à Boulevard 101, puis là, on les gâte pas à peu près.
Et moi, je trouve que c'est un des plus beaux concours de la saison.
Clairement.
Parce que, justement, ça dure toute la saison. La saison de quoi? Ben, celle des remparts ici à Québec. Puis là, on est en reconstruction. On vivra pas l'année des il y a 2 ans, mais on est vraiment dans un beau phénomène que si vous voulez voir.
Il y a tellement des bons jeunes joueurs. Nathan Quinn repêché, Maddox Dagenais, son année de repêchage. Ça va être une très belle saison pour les remparts.
Si vous voulez les voir évoluer puis faire partie de ça, là, cette progression-là, des jeunes sur la glace, c'est le temps. Ça débute le 21 septembre, c'est dans pas long, dans 10 jours exactement, puis c'est au Centre Vidéotron, vous le savez, puis Boulevard 101, ben, on a décidé, en tant que fidèle coéquipier des remparts depuis des années, d'avoir un genre de repêchage maison. On veut vous faire gagner une paire de billets pour la saison. Alors, une paire complète là, pour tous les matchs, pour aller encourager votre équipe préférée. Puis c'est le kit du fan numéro 1, qui est casquette, trompette, des gourdes, sacs de sport, accordons, des rondelles. C'est 32 matchs à domicile, puis vous avez vos sièges réservés. En cas de présence en série éliminatoire, vous les avez aussi. Donc, escouade 100% complète au niveau du tailgate pour l'ouverture contre les Saguenayens de Chicoutimi. Puis, vous allez pouvoir assister au populaire match Rock Boulevard 101 aussi plus tard cet hiver. Comment est-ce que vous pouvez gagner? On teste vos connaissances. Sur les joueurs célèbres qui ont passé par la Ligue, si vous avez 2 sur 3, si vous avez 2 bonnes réponses sur 3, vous êtes éligible, OK?
Et c'est par texto.
Par texto, certainement, au 88-971-1021. Première question. Quel joueur vedette de l'Océanique de Rimouski a établi un record de points pour un joueur de 16 ans?
Oh, je le sais.
Ah ouais, hein?
Oui, je le sais, ça.
Ah, mais c'est quand même quelqu'un de très populaire.
Bon, ouais, quelqu'un de très, 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 très populaire. Je pourrais pas donner son surnom.
Non, non,
ça va
pas,
donner
va
la
pas
réponse.
Plus. Ouais, là, on veut des fans. 2. Quel joueur des remparts de Québec a marqué 130 buts en 1970-1971?
Hey, mes parents sont rencontrés à cause de cet homme-là.
Sérieux?
Ouais. Mes parents avaient leur billet de saison au Rempart dans ce temps-là. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, dans le vieux Colisée.
Tu sais, quand on dit c'est le fun d'aller voir des jeunes jouer parce que tu sais pas qui vont devenir pour la suite des choses.
Ouais, c'est
là.
Ça.
Les idoles de demain. Là.
Exactement.
Puis, troisième question à laquelle vous pouvez répondre, c'est pour quelle équipe a joué Mario Lemieux pendant ses 3 saisons dans la LHJMQ?
Celle-là est plus difficile. Moi, je le sais parce que je suis un crack de la LHJMQ. Mais celle-là est plus difficile, mais je suis certain qu'on en a là, qui vont l'avoir. Là.
Quel joueur vedette de l'Océanique de Rimouski a établi un record de points pour un joueur de 16 ans? Quel joueur des remparts de Québec a marqué 130 buts en 70-71? Mm-hmm. Puis pour quelle équipe a joué Mario Lemieux pendant ses 3 saisons de la LHGMQ?
On a des bonnes réponses qui entrent déjà au 418-971-102. On a des grands connaisseurs.
Bonne chance. Pascal.
Bonne chance. Merci beaucoup, Pascal CV, pour cette belle promotion Boulevard. Je te propose, on fait une courte pause. Par la suite, on revient avec quelques manchettes et on va avoir le nouveau ministre responsable de la jeunesse et ministre délégué à l'économie et au PME, Samuel Poulain, député de Beauce-Sud, avec nous au téléphone. Une belle promotion pour lui hier avec cette nomination au Conseil des ministres. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 101. Vous écoutez On en jase.
25 % de rabais avec...
Est-ce que vous cherchez un nouvel emploi ou vous le cherchez pas, mais peut-être que vous avez un peu le discours ouvert à ce que je vais vous dire pour la suite des choses. Je vous parle d'Hébergement Rive-Nord. C'est une entreprise qui est d'ici, fondée en 2015. C'est une équipe qui est continuellement à la recherche d'innovation, mais aussi de collègues passionnés. Je dis ça parce qu'on prend soin des autres. On prend soin de ceux qui ont un trouble de déficience intellectuelle ou encore un trouble du spectre de l'autisme. On est 5 ressources intermédiaires qui hébergent ces résidents-là qui ont juste besoin d'un encadrement, d'amour. Ils ont besoin de soins continuels, mais une qualité de soins aussi. Et c'est ça qui prime chez Hébergement Rive-Nord. Équipe de bénéficiaires extraordinaires, mais équipe aussi de collègues passionnés, dynamiques. On a des éducateurs spécialisés, des intervenants délinquance, des travailleurs sociaux, puis d'autres aussi qui veillent au bien-être des résidents au quotidien et aussi au bien-être des collègues de travail. Ça fait toute la différence, hein, être dans une équipe motivante, soudée, qui s'aime vraiment, qui sont là pour la même mission. Bien, c'est ce qu'on a du côté d'Hébergement Rive-Nord. Puis le travail, en fait, consiste tout simplement à intervenir auprès de cette clientèle-là avec peut-être des préoccupations différentes comme participer à l'amélioration du milieu de vie des résidents, animer des activités aussi auprès de la clientèle puis veiller au bien-être des milieux de vie. Donc, si c'est quelque chose qui te parle, si tu veux avoir un genre de petit changement dans ta vie puis tu te dis « ça me parle parce qu'au quotidien, moi, je vais être heureux de rendre heureux », va voir tout ce qu'il faut sur la page Facebook de Hébergement Rive-Nord.
Jusqu'à 14h, on en jase.
13h02 à On en jase. On a Samuel Poulin, nouveau ministre dans le Parlement de la CAQ. Mais avant, Pascal, il y a des problèmes dans la circulation.
Oui, un gros accident qui vient d'arriver dans le coin de Le Bourgneuf, là, à la lumière, coin des Brumes. Ça, c'est en face d'Hydro-Québec. Il y a une voiture qui emboutit derrière d'une autre voiture qui a fait une fausse manœuvre. Puis ça fait des tonneaux dans le secteur. Donc, ça vient d'arriver. C'est assez frais. On surveille ça, mais gros accident dans Le Bourgneuf, à la lumière, coin des Brumes.
Alors, soyez prudents sur la route, chers conducteurs et conductrices. On a au bout du fil Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et nouveau ministre responsable de la jeunesse et ministre délégué à l'économie et au PME. Monsieur Poulin, comment allez-vous?
Ça va très bien, Monsieur Fortin, et vous?
Ça va super bien, merci pour votre disponibilité. Monsieur Poulin, d'entrée de jeu, personnellement, comment on se sent d'être nommé au Conseil des ministres après autant de temps comme député à la CAQ?
Bien, le poids de la responsabilité, d'abord, parce que je me considérais déjà très chanceux d'avoir, à 34 ans, bientôt 35, d'avoir été député pendant 8 ans de ma région Beauce-Sud. Alors, j'étais déjà très content des fonctions que j'avais. Je sais aussi qu'un remaniement, c'est difficile pour un premier ministre. Il y a des choix humains, il y a la complexité régionale, la complexité de l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. Alors, je n'avais pas d'attente, mais évidemment, mon nom circulait. Alors, d'avoir l'appel, d'avoir un dossier aussi important que celui-là, évidemment que ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur, mais en même temps, je suis au travail pour pouvoir faire avancer les choses. Dans ce mandat, il nous reste 12 mois, alors faut être efficace et travailler vite.
Pourquoi on vous a choisi, vous pensez?
Je pense que je suis tenace, je prends la parole au caucus, je comprends les régions du Québec, je comprends l'importance de déréglementer, du libre-marché, de l'imputabilité. Dans les valeurs que M. Legault a dit hier, je pense que je m'inscris directement là-dedans. Et aussi, ben, je suis un gars qui défend ma région. Bon, mes collègues ont voté dans le palmarès de la presse à quelques reprises parce que je suis tenace, j'accepte pas un non. Par même temps, malgré mon jeune âge, ben, je comprends l'appareil gouvernemental, je comprends les budgets. Alors, je pense que c'est un peu tout ça. Puis, j'ai étudié au Collège Radio-Télévision de Québec. Moi, au même moment, j'ai une famille d'entrepreneurs en Beauce. Alors, je pense que j'ai un profil assez particulier.
Parlons-en justement d'entrepreneuriat. Qu'est-ce que nos PME ont besoin au Québec, notamment en Beauce?
Je vais déposer une loi prochainement pour déréglementer plusieurs éléments. Alors, pour d'un allègement réglementaire via différents projets, via différents ministères.
Lesquels, par exemple, qu'on va justement déréglementer?
La loi fait que je dois attendre qu'elle soit déposée. Vous comprenez que je suis arrivé hier. Alors, faut que je prenne le temps de bien l'asseoir pour que ça fonctionne. Alors, je veux pas créer d'attente sur un volant en particulier, mais l'esprit, il est là. Les entreprises, les PME, il y en a 250 000 au Québec de moins de 250 employés, là. C'est important, c'est dans tous les domaines. Moi, la restauration, là, je suis un grand amateur comme vous, mais je crois qu'il faut être le meilleur ami des restaurants. Faut les aider, faut les accompagner si on veut en avoir beaucoup. C'est le cas à Québec, mais c'est le cas dans les régions. Je pense que l'industrie du bois, avec les tarifs qu'on vit présentement, faut faire des éléments de plus. Il y a l'industrie du transport, il y a bien évidemment l'acier, l'aluminium qui a encore des tarifs. Alors, c'est très vaste, il y a beaucoup d'éléments. Et s'il y a des gestes que je peux poser à court terme pour leur alléger la vie, je vais le faire.
Parce que, bon, effectivement, les restaurants, pour faire le mini-parenthèse, il y en a beaucoup qui disent que c'est toujours les oubliés des élus, c'est toujours les oubliés du secteur entrepreneurial depuis longtemps. Monsieur Poulain, on vous voit aller depuis longtemps, on vous connaît. Je veux dire, moi, je sais vous êtes qui depuis des années. Vous êtes un travaillant. En 12 mois seulement, en tant que ministre, est-ce que avec tous les projets, la ferveur, la rigueur qu'on vous connaît, vous pensez réussir à satisfaire les citoyens, les contribuables, ou il faut déjà avoir en tête que c'est tellement court, 12 mois, qu'on ne peut pas vous qualifier comme étant un bon ou un mauvais ministre à la fin?
On peut pas plaire à tout le monde, qu'on soit là un an ou qu'on soit là 4 ans. Alors ça, c'est un fait. Maintenant, j'ai une feuille de route là. Tu sais, j'ai appris ma fonction mardi. J'ai été assermenté hier. J'ai déjà rencontré les professionnels du ministère de l'économie. Ça va se poursuivre ce soir. Là, présentement, je vous parle en direct de la Beauce parce que c'est important d'être avec mes gens aujourd'hui. J'avais un agenda. Je voulais pas le canceller. Je voulais être avec eux parce que ça reste ma première priorité. Mais oui, le cadran compte là. Alors, 12 mois, c'est très rapide. Les gens jugeront sur le travail, jugeront sur ce qu'on aura accompli, mais il n'y a pas de temps à perdre, là, tu sais. Et moi, j'attends pas de me faire créer une nouvelle adresse courriel, là. Je travaille avec mon courriel de la Santé nationale, comprenez-vous? Alors, tu sais, je veux être efficace, je veux savoir où on s'en va. Et les PME, je les connais déjà, donc j'ai pas à m'imprégner. Vous parliez des restaurants qui ont peut-être, oui, c'est vrai, été des oubliés pendant des années. Alors, je veux qu'on retravaille le cube Rubik avec eux sur toutes les façons de faire. Les concessionnaires automobiles, ils sont tellement importants. C'est du monde qui collabore à nos festivals, à nos événements. Ils font vivre nos communautés dans nos régions. J'y voyais hier la Corporation des concessionnaires automobiles. On s'est croisés. Alors, je vous dirais, oui, le temps est court, mais je me gênerai pas pour mettre le temps et l'énergie pour consacrer et faire une différence.
En terminant, est-ce que vous allez vous battre au sein du caucus des ministres pour empêcher justement des investissements à l'étranger, comme les investissements là, avec Nordvolt qui attire des compagnies étrangères ici, plutôt investir dans les PME?
Quand Investissement Québec fait ses investissements dans la dernière année, là, c'est plus de 95% qui est fait, notamment dans des PME et dans des entreprises québécoises. Alors, il y a certains...
Oui, au niveau des prêts pardonnables, par contre, c'est énormément là, pour les entreprises étrangères. Là, ce qui est sorti dans les médias, c'est au-delà de 65%.
Oui, mais moi, j'en ai beaucoup en Beauce qui ont des prêts pardonnables, qui en ont eu et que ça fonctionne. Il y en a d'autres, ça a été des subventions directes dans l'industrie du bois, notamment pour automatiser, pour robotiser. Alors oui, il y a des symboles comme ceux-là que des fois, je peux compter sur le doigt d'une main ou deux qu'on met de l'avant alors qu'on aide beaucoup de PME en région, on aide beaucoup d'entreprises. Et oui, je serai là pour les PME à propriété québécoise. D'ailleurs, la mission d'Investissement Québec auprès des PME, c'est déjà dans mon agenda pour qu'on puisse regarder le tout.
Monsieur Poulain, on vous souhaite un bon début en tant que nouveau ministre de la Jeunesse et également ministre délégué à l'économie et aux PME. Et au plaisir de se parler en studio lorsque vous serez à l'Assemblée nationale. Passez nous voir sur le boulevard Le Bourgneuf. Ça va nous faire plaisir de jaser avec vous.
Avec plaisir. Merci à vous deux. À
merci.
La prochaine.
Bonjour, bonne journée. C'était Samuel Poulain, nouveau député. Ben pas nouveau député de Beauce-Sud, mais nouveau ministre responsable de la jeunesse et ministre délégué à l'économie au PME. Bon, c'est sûr, c'est une petite mise en bouche, Pascal. Monsieur Poulain avait un agenda bien chargé. S'il veut demeurer en poste, va falloir vraiment, mais vraiment, qu'il prenne soin des PME, c'est le nerf de la guerre en Beauce.
Oui, même s'il est réélu dans sa circonscription, son comté, peu importe, ça reste qu'il faut que son parti soit élu aussi pour
oui.
qu'il puisse avoir un peu le penchant. Mais c'est un, et je dois dire, quelqu'un, une personnalité politique qui travaille très fort dans son secteur depuis toujours. Là. C'en est un qui est dévoué, même dans les médias, il travaillait mm-hmm. dans le coin de la Beauce.
Je suis très d'accord avec
ça,
toi.
Ça, je peux pas y enlever.
Non.
Je serais vraiment pas correct
oh,
de
non,
dire
non,
le contraire.
Exactement.
Puis c'est vrai qu'il a toujours été travaillant.
Il mérite sa place en tabarouette dans ce Conseil des ministres.
Oui, puis tu sais, attends, dans le sens où on peut voir pour son travail qu'il mérite.
Oui.
En même temps, c'est le type de ministre actuellement, maintenant ministre, qui est un peu plus dans ce que François Legault dit, veut.
T'as raison, mais ben ça plus... sort par texto ouais. que hey, la cassette caquisse est repartie.
Mais ça, ça a toujours été un petit peu plus dans la table de M. Poulain, là, de suivre son premier ministre. Oui. Puis tu sais, il y a plein de façons d'analyser. Ben, c'en est un qui est fidèle au premier ministre. Il doit quand même sa chance politique. C'est du donnant-donnant à un certain point. Ou... Mais c'est une coalition. Fait que des fois, c'est correct aussi d'avoir un petit peu de
coltaillage. Oui, c'est le respect de la hiérarchie, souvent, des fois, de la façon que tu as été éduqué. T'sais, il dit il vient d'une famille d'entrepreneurs, donc j'ai l'impression que ça peut faire partie là, justement de son background.
Toujours apprécié d'un premier ministre. Au niveau des contribuables, de ceux qui élisent, ben peut-être que quand c'est vient le temps de s'élever vers un peu de polémique, ils s'attendent à ce que leur député, comme M. Poulain est extrêmement près de son monde dans son coin, ils s'attendent peut-être à ce qu'il y ait un petit peu plus de rififi des fois, ou de défense.
Un peu plus de brassage à l'interne. On lave notre linge sale en famille. Oui. Exactement, ça va être à voir. 21 degrés à l'heure actuelle, c'est généralement ensoleillé. 21 degrés ensoleillés pour vendredi, pour le week-end. C'est un super beau week-end ensoleillé à 22 degrés. Il est présentement 13h11. Pascal, en attendant, notre collègue Rémi Villemur, qu'est-ce qu'il faut suivre dans l'actualité?
Oui, il y a beaucoup de choses actuellement, mais c'est sûr que moi, je commence avec tout ce qui se passe au niveau d'ici. Je dois dire qu'il y a eu des revirements sur le troisième lien et Legault regrette les gros cartables de Mme Guilbeault. On est dans les regrets.
Ouais.
Dans les dernières heures, il y a beaucoup de choses du type qui sort.
Il est peut-être tard pour regretter les cartables.
On reconnaît avoir commis des erreurs dans la région de Québec. C'est vraiment Québec là, qui est un petit peu prôné en ce moment. On a l'impression de se faire essayer d'envelopper dans une grosse doudoune.
On essaye encore de nous séduire.
Mais François Legault a dit avoir commis des erreurs qui étaient stratégiques là, dans la région de Québec, entre autres pour le troisième lien. Regrette particulièrement le point de presse de Mme Guilbeault en 2023, hein, quand elle est arrivée là, avec sa pile de cartables pour essayer d'expliquer l'abandon du projet. Il l'a dit, parce qu'il fait une tournée médiatique, là, il est un peu partout en ce moment, François Legault, après l'annonce de son remaniement. Il dit « Je ne l'aurais pas fait, vous savez, on a beaucoup abordé le dossier du troisième lien, on se basait sur l'achalandage, on se demandait combien de minutes on pourrait sauver avec un troisième lien, mais j'aurais pas fait ça comme ça. Les études qui étaient contenues dans les cartables de Mme Guilbeault démontraient que l'achalandage justifiait pas la construction d'un troisième lien entre les deux rives. Puis c'est un projet qui était évalué à l'époque, rappelez-vous, à 9,3 milliards de dollars. Il a continué, il a plaidé, et il dit, mais en même temps, la conclusion à laquelle je suis arrivée, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul des deux ponts qui permet le passage de camions. Lui, il souhaite le développement économique de la grande région de Québec. Fait que c'est un peu cette cassette-là qu'on connaît.
Ouais, qu'on connaît à nouveau.
Puis en gros, ben, c'est, je m'excuse, le point de presse n'aurait pas dû être celui que vous avez connu.
Ça va être à suivre parce qu'avec le tracé actuel, il y a déjà le maire Marchand qui s'est élevé en disant « Hey, on ne scindera pas Vanier-en-Deux, on ne passera pas par le boulevard Pierre-Bertrand. » Et il y a énormément d'acteurs municipaux qui pensent la même chose, même ceux qui sont anti-tramway. Un Hugo Langlois dans l'équipe Samamad a dit exactement la même chose. Alors, la CAQ est attendue de pied ferme avec ce tracé-là.
Absolument. Sinon, dans l'actualité, ce qu'on a appris dans les dernières minutes, c'est qu'il y a une collision qui implique un autobus scolaire puis un poids lourd en Chaudière-Appalaches. C'est une vingtaine d'élèves qui ont été transportés à l'hôpital. Ça est soudain. Collision qui implique l'autobus scolaire, comme je vous disais, qui est survenu sur la route 271. C'était, en fait, l'autobus qui était immobilisé. On voulait faire monter un élève à bord, puis le poids lourd a percuté la voiture de plein fouet, la voiture qui attendait directement derrière l'autobus. Selon les informations de l'école, les jeunes qui se trouvaient dans les autobus, bien sûr, il y en a pour certains que c'est des blessures mineures, d'autres un certain traumatisme, mais ils ont été, pour les 24, transportés à l'hôpital. La conductrice de la voiture a été transportée à l'hôpital aussi. Elle a des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger. Donc, plus de peur que de mal, mais quand même un bon accident là, du côté de Chaudière-Appalaches.
Une petite dernière en attendant, notre collègue Rémi Villemur qui veut nous parler justement de la violence aux États-Unis en lien avec l'assassinat de Charlie Kirk.
Ben regarde, on peut en parler justement de ça, l'assassinat de Charlie Kirk. FBI qui a publié des photos d'une personne d'intérêt. Après avoir retrouvé l'arme, le FBI publie des photos de cette personne-là. On offre une récompense de 100 000 $. Ça vient de sortir dans l'enquête sur la mort de l'influenceur conservateur. On cherche encore le suspect principal.
Merci beaucoup, Pascal CV, pour ces manchettes. On a, au bout du fil, notre collègue du 99.5 Montréal. Il a une émission de 18h à 19h du lundi au jeudi. Et il est là le samedi matin avec Jacinthe Varel de 8h à 10h. Rémi Villemur, comment vas-tu?
Ben ça va. C'est une drôle de journée. Je ne sais pas si...
Oui, hein?
Ben, moi, hier soir, il y a des gens qui se sont mis à m'écrire en me disant qu'ils ne se sentaient pas bien. Des Québécois, des gens, pas des Américains. Ils disaient, je ne sais pas si tu, comme moi, prends ça personnel. Puis là, je leur disais, il y a quelque chose de bizarre que je ressens. Puis ça va me prendre la nuit pour mettre des mots là-dessus. Et ça m'a pris la nuit pour mettre des mots là-dessus. Puis c'est étrange. C'est un Américain qui n'était pas un personnage méga connu au Québec. On ne va pas se planter de mentir. Les jeunes l'avaient vu passer beaucoup sur les réseaux sociaux. Les jeunes plus associés et même les moins jeunes plus associés à la droite conservatrice connaissaient bien ce personnage-là. Mais là, moi, j'ai des gens dans ma famille, des oncles, des tantes qui ne sont pas de droite, qui sont complètement dévastés parce qu'on dirait que la fameuse promesse qu'on nous fait depuis des années, voulant que tout se règle par les mots, que le dialogue peut nous sauver, que la réponse se trouve au milieu, autour d'une table, idéalement avec un petit verre de bière, eh bien, on dirait qu'elle est rompue, cette promesse-là,
C'est
parce
cette
que.
montée, c'est cette crainte de montée de violence. Et moi, personnellement, c'est ce qui m'a apeuré hier de dire, OK, on s'en va où avec cette violence-là dans un système qui est démocratique?
Bien, on s'en va. Moi, je t'ai écrit hier soir, guerre civile, là, ce sont deux mots qu'on est incapable au Québec de mettre ensemble parce que ça ne fait pas partie de notre histoire. Mais il faut savoir que les États-Unis, jusqu'au 19e siècle, c'était le rythme et une constante de leur histoire. Et ils sont toujours à peu près 2 mm que ça éclate. Et quand il n'y a pas de guerre civile, il y a une guerre culturelle qui est engagée aux États-Unis depuis au moins l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche en 2016. Et c'est exactement ça qui est sur le point peut-être de survenir, c'est-à-dire des affrontements entre des idées, mais qui débordent comme ça avec des armes. Et moi, mon problème avec ça, c'est qu'on nous disait que ça, on pouvait l'éviter. On pouvait l'éviter en discutant. Et ce que Charlie Kirk faisait, c'était se présenter sur des campus, installer une table, parce que vers la fin, il y avait toute une mise en scène, il y avait des caméras, mais au tout début, c'est pas ça qu'il faisait. Il mettait une petite table, une petite chaise, un petit carton, puis il disait, venez me prouver que j'ai tort. Et là, il lançait des énoncés qui, pour moi, relevaient du gros bon sens. Une femme, c'est pas forcément quelqu'un qui s'identifie comme une femme. Une femme, c'est biologiquement déterminé. L'histoire des États-Unis est marquée par ceci. Et là, il y a des gens qui venaient s'opposer à ce qu'ils disaient et ils les écoutaient. Ils les écoutaient, ils leur répondaient. Des fois, c'était une humiliation rhétorique. Il n'y avait rien de physique là-dedans. Il encourageait la discussion et ça lui a valu la mort. Donc, où on s'en va si une discussion mène désormais à la mort?
Il y a quelque chose de. Parce qu'on se penche beaucoup sur les propos sont importants, c'est correct d'être en désaccord avec ça, c'est correct d'être en accord avec ça, dans le sens où on est dans un pays ici au Canada, puis ils sont dans un pays aux États-Unis où on n'a pas les valeurs qu'on voit ailleurs dans le monde, puis le fait de discuter nous enrichit énormément. Le fait de le faire de façon pacifique aussi. À l'arrivée de Donald Trump, il y a une chose, moi, qui m'inquiétait puis que je le disais toujours, c'est son leadership. Pour moi, le leadership de Donald Trump n'était pas celui qui devrait être à la tête des États-Unis en ce moment, dans un monde qui se fractionne avec la géopolitique qu'on connaît. Et j'ai eu hier un peu l'image du leadership que je n'aime pas. Un leadership dans un temps de crise comme ça, peu importe tes allégeances politiques, peu importe tes opinions, c'est de ramener ton peuple soudé et non divisé encore plus. Et les prises de parole qui ont été prises par rapport au président des États-Unis hier m'ont beaucoup déçu. Puis là, je pèse mes mots, mais moi, j'aurais aimé entendre, peu importe que ce que vous pensez, peu importe si vous êtes dans le clan républicain ou démocrate, aujourd'hui, il faut prouver qu'on est tous ralliés contre la violence. Et cette violence-là ne mènera à rien et personne ne doit l'encourager en propos, en gestes et en encouragement ou à l'acceptation d'un geste comme tel. Ça aurait dû être ça, le discours du président hier, parce que il a sa crowd, il a son monde qui l'écoute. Puis il serait allé chercher aussi beaucoup de gens dans l'autre crowd qui est un peu son ennemi en termes d'idéologie politique, pardonnez-moi, il y a quelque chose dans mes écouteurs en ce moment. Et ça fait en sorte que j'aurais beaucoup aimé voir autre chose que ce que j'ai entendu parce que là, j'ai peur pour la suite des choses. On est en train vraiment de diviser le peuple américain, puis ça traverse les États-Unis en ce moment.
Ouais, ben là, ça va être la bataille des versions parce que moi, j'ai entendu une partie des nombreuses allocutions qu'a prononcées donc Donald Trump depuis hier. J'ai entendu à un moment donné un message très, très encourageant, un message qui visait à réunir le peuple américain.
Ça, c'est important.
Oui, donc je l'ai entendu dire ça. Par la suite, c'est vrai, je dois l'admettre. Je l'ai entendu pointer du doigt à la gauche, radical. Mais à partir du moment qu'on a une bonne idée de qui a commis le meurtre, là, on a trouvé l'arme. Sur l'arme, il y avait des inscriptions. Les inscriptions, c'était plutôt associé à une certaine idéologie. Je pense qu'il ne faut pas tourner en rond non plus, parce que pour éviter que ça se reproduise, ça serait bien quand même de nommer le problème. Parce que si on nomme pas le problème, puis qu'on se met la tête dans le sable, puis qu'on dit si on le nomme, ça va encore plus polariser les
Et
gens,
le problème pour
c'est pas ce qui
toi, le
garantirait que
problème
ça
pour
se
toi, Rémi,
reproduise.
c'est les groupuscules radicaux, autant à gauche qu'à droite?
Ben là, en l'occurrence, cette fois-ci, il est question de la gauche, là. Je ne sais pas pourquoi ce serait le moment de faire le procès de la droite, là.
En effet, t'as entièrement raison.
On fera le procès de la droite quand la droite sera derrière un attentat politique. Il se trouve que les trois derniers d'importance qui sont survenus aux États-Unis, c'était la gauche qui était derrière. Il y en a eu deux dont Donald Trump a été la cible. Et cette fois-ci, ça s'est terminé de façon encore plus tragique.
Est-ce qu'on pourrait nommer le problème, Rémi, mais en parlant aussi de la violence en général dans les groupes d'extrême? Est-ce que ça peut
Ouais,
être fait, là voici, là il y a des photos du suspect, avec ce qui va être écrit sur l'arme, avec ce qui va sortir de l'enquête, de nommer ça, d'aller au fond des choses, de voir si c'est plus gros que ce que cet individu-là semblait être un petit peu seul dans ses gestes, mais de prendre tout ça, mais de ne jamais oublier qu'une violence, peu importe envers qui, envers quoi, n'est pas la solution, est à répéter et répéter.
je comprends, mais le fond des choses, on ne s'entend peut-être pas sur ce que c'est, mais le fond des choses, c'est qu'il y a un certain clan aux États-Unis qui refuse le dialogue et qui, lorsqu'il n'a plus d'arguments, il prend des armes et il tire sur ses interlocuteurs. C'est ça, pour moi, le fond des choses. Après, on peut dire aussi que le fond des choses, c'est les armes aux États-Unis, mais là, ça, c'est structurel, c'est constitutionnel, c'est ontologique aux États-Unis. Cette discussion-là, on ne l'aura pas avec Donald Trump, puis on l'aura pas avec Barack Obama, Joe Biden ou Kamala Harris non plus, hein. Ils ont eu quand même leur chance. Kamala Harris, évidemment, était vice-présidente. Mais donc, le fond des choses, et sur la base de ce qui s'est produit dans les dernières années, c'est que lorsque l'extrême gauche n'est plus capable de fournir un argument, eh bien, ces éléments les plus fous prennent des armes et tirent dessus, tirent sur ses adversaires. C'est ça le fond des choses. Et ça fait mal et on est de la difficulté à le comprendre parce que la gauche, c'est la bienveillance. La gauche, c'est l'inclusion. La gauche, c'est le bien. La gauche, c'est la générosité. Mais la gauche, c'est aussi ça. L'histoire est catégorique. Il y a plein d'exemples de débordements à
Mais
gauche.
dans
Donc,
l'extrême, c'est jamais bon. Puis on en voit plein de débordements gauchistes là, qui sont épouvantables et qui finalement minent même le courant de ceux qui voudraient plus d'égalité puis ils le font de façon
ben oui.
pacifique. Là où pour moi, c'est important de ramener l'importance d'une non-violence, là, c'est pour calmer les tensions en ce moment, calmer la grande fracture qui est en train de se passer dans le peuple américain parce que ça va avoir des conséquences fulgurantes sur le déchirement d'amitié, de famille et tout ça, parce qu'ils vont juste s'opposer sur la gauche et la droite. Puis l'extrême doit être pris comme étant l'extrême en général, qu'il y ait de l'extrême gauche, qu'il y ait de l'extrême droite. Ça ne me dérange pas qu'on nomme les faits, mais il faut vraiment apaiser les tensions en ce moment. Puis hier, je pense que j'ai perdu 2 à 3 heures ce matin encore à juste lire des réponses sous des publications, à lire ce qui se passe dans différents réseaux avec les commentaires des gens qui sont assis dans leur salon, là. Puis il y a une grande tension parce que tout le monde est fâché d'une manière ou d'une autre, puis cherche des coupables. Le
Oui,
coupable, c'est celui qui a tué. Le coupable, c'est l'idéologie extrême, qu'elle soit gauche ou de droite. Mais il faut amenuiser les tensions, puis ça part de prendre le courant extrême dans son étendue.
ouais, mais je vais me répéter, mais la droite n'a pas rapport avec ce qui s'est passé. Donc, quand tu dis l'idéologie extrême, qu'elle soit de gauche ou de droite, moi, je pense que quand on tourne en rond, on ne règle pas des problèmes.
Mais il faut le
On
prendre
peut
aussi,
nommer.
là, en ce moment, à la base, parce que la droite, en ce moment, se fâche énormément contre la gauche. Fait que les deux vont. Tu sais, je veux pas juste que ça monte une tension puis ça fasse en sorte que ça soit complexe pour la suite.
Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais je pense qu'il faut nommer les choses. Je pense que Donald Trump, on lui connaît son style, il dépasse les bornes, mais il a un mandat difficile en ce moment. Il a une responsabilité presque impossible. S'il avait prononcé les mots que tu aurais souhaité, je ne suis pas sûr que ça calmerait non plus tant que ça la population, parce que s'il disait le problème, ce n'est pas la gauche, ce n'est pas l'extrême gauche, c'est les extrêmes, c'est la violence, les gens diraient, mais attends une minute, il nomme pas le problème. On pensait l'avoir élu pour qu'il nomme les problèmes. Donc, je pense que son mandat est à peu près impossible dans des circonstances comme ça.
Rémi, merci beaucoup parce que tu fais énormément réagir nos auditeurs et c'est très positif. Il y a des gens qui te disent bravo Rémi, t'as absolument raison. Il y en a a d'autres qui disent « Hey, aucune preuve encore que ça vient de la gauche, donc pourquoi Rémi dit ceci? » Mais il y a une question très intéressante que j'ai captée ici par texto qui vient d'Éric. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ce qui se passe aux États-Unis à l'heure actuelle, et là on le ramène plus local, avec la crise d'octobre en 1970 au Québec?
La crise d'octobre, quand on connaît l'histoire du Québec, c'est une période un peu particulière où les indépendantistes québécois, une certaine frange extrême, de gauche d'ailleurs, je veux juste le préciser.
C'est exactement pourquoi je te pose cette question-là et que je trouvais la question pertinente d'Éric.
Ouais, à ce moment-là, ces gens-là s'étaient inspirés d'une énergie qui venait d'ailleurs. On était dans la décolonisation un peu partout dans le monde, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, il y avait des mouvements de libération, mais c'était pas un mouvement, le mouvement du FLQ, qui était profondément québécois. D'ailleurs, le peuple québécois, assez rapidement, avait dénoncé les agissements du FLQ, ne suivait pas la violence, ne la soutenait pas, ne l'acceptait pas, ne la trouvait pas québécoise, cette violence-là, parce qu'on est différent, on est différent des Américains. Pour ce qui est des gens qui disent qu'il n'y a pas encore de preuves, ils ont raison. Par contre, on a retrouvé l'arme, et sur l'arme, il y avait des inscriptions, et les inscriptions sont des slogans d'extrême-gauche.
Donc, OK, là, cet élément d'information-là, merci.
Absolument, non. Donc, évidemment, je veux juste être prudent, on utilise le conditionnel présent, la personne n'a pas été trouvée, par contre, on a identifié un suspect, il y a des images qui circulent en ce moment, et l'arme en question, on sait déjà que c'est l'arme qui a servi à tuer Charlie Kirk, hein, on fait une analyse balistique, sur l'arme, il y avait des slogans d'extrême-gauche, c'est une pratique courante. Quand Alexandre Bissonnette avait fait ce qu'il avait fait à Québec, on avait retrouvé sur son arme des slogans. C'est une pratique courante dans les tueries de masse. Et d'ailleurs, je ne me rappelle pas qu'on ait dit que Alexandre Bissonnette était simplement quelqu'un d'extrême. On avait dit qu'il était d'extrême droite. On avait dit que c'était un islamophobe. Bon, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il ne faut pas associer ce qui s'est passé hier à la gauche. Mais quand c'est à la droite, par contre, on dirait que c'est plus facile de faire des déductions. C'est pas inutile de dénoncer cette injustice.
Rémi, je termine avec ça parce que j'aime beaucoup faire l'avocat du diable. Par texto, le président américain, avec son discours, vient d'ouvrir la chasse à tout ce qu'il n'aime pas. T'en penses quoi?
Il vient d'ouvrir la chasse. On est en guerre culturelle aux États-Unis. Ça, si on n'accepte pas cette idée-là qu'il y a une guerre culturelle entre les idées depuis au moins les années 60 aux États-Unis, on ne comprend pas la dynamique. Donald Trump n'est pas parfait, il est allé sans doute trop loin, il n'aurait peut-être pas dû nommer les choses aussi clairement que ça, sauf que par le passé, on n'a pas nommé les choses, puis ça n'a pas réglé les problèmes, c'est pas mauvais de changer des fois de stratégie.
Rémi Villemur, tu nous fais toujours réfléchir différemment, et c'est ce que j'adore, on a des excellents débats, j'ai adoré ton débat avec Pascal CV sur cette question d'extrême-gauche, extrême-droite. Merci de faire partie de cette belle émission, on en jase, et au plaisir de se reparler mardi prochain.
Bye-bye à vous deux, sans rancune, Pascal.
Mais moi, j'aurais pris plus de temps même pour qu'on s'en jase.
Merci, Rémi Villemur, à plus. Salut. Rémi Villemur, toujours très, 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 très intéressant à écouter. Il va dans des sphères différentes. Puis oui, Pascal, on reprendra ce débat-là, extrême droite, extrême gauche, avec plaisir.
C'est même
fais-moi
pas...
penser, on enverra ça à Rémi, puis on fera ça mardi prochain.
C'était
avec
plus
un
une question
plaisir.
De leadership. Comment appliquer leadership rassembleur quand il y a des tragédies du type qui se présentent, puis que ton peuple se martèle, puis se martyrise, là, socialement parlant, de plus en plus.
Moi, je te dirais que, selon moi, Donald Trump a une réaction très émotive, humaine, au départ, avec la mort de Charlie Kirk, parce que c'est un proche de lui, un proche collaborateur, une personne, certain, qui aimait foncièrement. Par la suite, par exemple, et c'est Raphaël Jacob, là, de la chaire Raoul Dandurand, qui le disait à Radio-Canada hier soir, il s'est tempéré dans ses propos, et ça lui faisait dire qu'il voyait une différence avec qu'est-ce qu'il a vu dans les années 60, avec les politiciens qui se rangeaient vraiment droite-gauche. Il disait « Trump a ramené ça un peu plus au centre ». Mais bon, est-ce que c'était assez au centre? Ça reste à déterminer.
C'est les prises de parole émotives quand tu es une personnalité politique d'envergure comme Donald Trump. Puis tout le monde est à risque de faire une erreur là, quand on est aussi haut dans la hiérarchie politique.
Ouais, oui.
Mais c'est toujours le pas de recul. Il faut toujours prendre le temps de souffler. Puis là, je te dis pas de sortir deux jours plus tard, il aurait été trop tard. Mais chacune de tes paroles va être bue par ton peuple. Et en ayant cette conscience-là, tu dois être plus mature et t'élever au-dessus de la situation qui est émotive. Donc ça, c'est là où tes conseillers politiques, tes attachés de presse, les gens qui travaillent en communication avec toi sont d'un réel support, un réel filet pour justement avoir une prise de parole qui ne sera pas interprétée non plus. Il ne faut pas qu'il y ait place à interprétation et reprise de façon malveillante par un groupe ou un autre, une idéologie ou une autre. c'est là où il aurait pu faire la différence. Il a encore le temps, pour moi, de faire la différence parce que c'est encore un enjeu qui est là, qui est bouillant, qui est chaud. Ça va être ça tout le long de l'enquête. Mais il faut se dépêcher à mettre le couvercle sur la marmite.
Ouais, en contrepartie, comme je te disais, il y a beaucoup de spécialistes qui trouvent qu'il a bien tempéré là, par la suite. On fait une courte pause ici à Boulevard 102.1 à l'émission On en jase. Au retour, Pascal, tu nous présentes quelques extraits concernant justement cet assassinat dans un métro. Hein, d'une jeune fille. Oui. Excellent. Et on va terminer l'émission avec Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, qui va nous parler de son sondage sur les véhicules à essence. Demeurez des nôtres. Vous êtes à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1. 13h38, minutes d'émission On en jase. Ça roule sur les chapeaux de roue aujourd'hui. Pascal, CV, ton point par rapport au leadership de Trump était clair, valide et pertinent. Bravo, commentaire d'un auditeur. Wow, Pascal, tu m'épates. Tu parles très bien. Tu es super bien informé. Félicitations, j'en aurais pris plus.
Il va falloir refaire ce débat-là. J'ai juste une petite passion sur le leadership. Peu importe quelle personne est à la tête d'une équipe, le leadership bienveillant, le leadership directif, j'adore ça, moi.
Puis là, il va falloir que je commence à m'astiner avec toi parce que crime, le monde aime ça quand on débat. Tu dis niaiserie, c'est vrai, non, c'est pas vrai.
Ouais, là, tu peux être démagogue, mais tu vas trouver ça plate, ça te ressemble pas.
Hey, Pascal, oui. Il n'y a pas juste eu cet incident de violence-là aux États-Unis, c'est-à-dire l'assassinat de Charlie Kirk. Il s'est passé quelque chose d'autre dans le métro.
Oui, là, je suis un peu subjuguée. Quand j'ai vu ça, je pensais que c'était un montage.
Oui.
Puis après ça, ben, j'ai vu ça, puis j'ai vu un assassinat sous mes yeux, filmé.
En direct.
En direct. C'est une vidéo très choquante du meurtre à Charlotte qui a été révélée. C'est une jeune réfugiée ukrainienne qui est arrivée ici, qui fuyait en fait la guerre en Ukraine avec la Russie il y a quelques années. Elle est arrivée avec sa famille, puis c'est des images à glacer le sang. Ça montre en fait cette réfugiée-là qui est assise dans le métro à Charlotte et qui se fait attaquer par un pur qui dame un inconnu, quelqu'un qu'elle connaît pas, qui était assis derrière elle et qui l'attaque à coups de couteau à la gorge. Elle s'appelle Irina Zatrutska, j'espère que je le dis bien, elle a 23 ans et elle est sur la ligne bleue, justement en Caroline du Nord, le soir du 22 août, le moment où elle se fait attaquer. Et les images ont commencé à faire le tour du web dans les dernières heures. Puis là, ça amène encore plus de tension aux États-Unis parce que ça divise aussi et ça ramène les idées d'immigration, la façon dont on encadre la santé mentale. On revient aussi sur la justice parce que là, il y a la peine de mort, la chaise électrique. Je te le jure, les États-Unis sont en feu en ce moment. Et quand je parlais d'amenuiser les tensions,
c'est que là... pour les bonnes raisons.
Non, c'est super difficile. Puis, tu sais, souvent, je te travaille des cas d'ici, de la ville de Québec, de ci et de ça. Ça reste que l'humain, là, on en est tous.
Ouais,
on
est l'humain, tous humains. Aux États-Unis, l'humain au Québec, c'est l'humain.
Exact. Puis, ce qui est le plus, en ce moment, discuté, c'est pourquoi personne n'a réagi. Mm-hmm. La jeune fille est entourée d'au moins 4 personnes autour d'elle. Son tueur est en arrière, OK? Il a eu le temps de mettre fin au jour de la jeune fille, de partir, d'attendre que le métro s'arrête, de sortir. Et il n'y a personne qui a réagi. Personne ne l'a intercepté, cet homme-là. Personne est venu en aide à la jeune fille, à part un homme. À un moment, après quelques secondes, il a enlevé sa veste puis a essayé de l'aider, mais elle est décédée sur le coup. Puis je me suis dit, Colline, est-ce qu'on observe un problème de société là, ou un problème individuel face aux gens qui sont assis dans le wagon? Je me suis dit, à qui je pourrais poser la question? Bien, j'ai trouvé. J'ai posé la question à Joël Monzé, qui est docteur en neurosciences, avec qui on jase souvent ici à Boulevard 102.1. Puis voici la réponse à la question. C'est un problème de société ou individuel?
En fait, c'est un sujet qui est extrêmement délicat. Je crois qu'on est tous touchés. Après avoir vu ces images-là qui ont tourné quand même pas mal sur la toile et de voir à quel point cette violence gratuite est vraiment quelque chose d'effrayant. Donc d'abord, toutes mes sympathies à la famille, à ses proches, ainsi que les gens qui nous écoutent et qui ont été touchés en fait par ce drame en question. Je crois toutefois que personne ne sait ce qu'il aurait fait s'il avait été à la place des gens qui étaient présents et qui ont assisté à ce drame. C'est pas nécessairement de la couardise, c'est une réaction qui est totalement normale. À 20 ans, probablement qu'il y aura plus de chances, il y aurait eu plus de chances que je bondisse et que je tente de protéger une personne qui se fait agresser. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, comme père de famille, je ne sais pas ce que je ferais et je crois que ça devrait nous inviter à être humbles et à éviter peut-être de juger les personnes qui étaient présentes et qui ont assisté à cette triste scène.
c'est vraiment intéressant parce qu'on nous ramène sur se protéger soi-même avant de protéger les autres.
Ou encore de ne pas savoir quoi faire face à tout ça. Est-ce que, bon, d'abord, justement, on a des questions à se poser sur ce qu'on fait, nous, là-dedans. Mm-hmm. Mais encore là, j'ai parlé avec Joël Monzé de si on veut réagir, on sait-tu comment on réagirait aussi? Mettons qu'on veut vraiment réagir. Ça, c'est clair dans notre tête, ça se passe devant nous. Comment est-ce qu'on réagit? Ça non plus, là, c'est pas totalement clair.
En fait, face à une menace qui est clairement identifiée, nous réagissons un peu comme une souris. On est génétiquement programmé, conditionné pour réagir de la sorte, dans le sens qu'une souris ne doit pas aller à l'école pour savoir qu'un chat, c'est dangereux. Et si elle est confrontée à un chat, sa première réaction, ça va être de figer. Elle va sidérer. Elle va essayer de faire la mort si le chat est en train de jouer avec elle. Et peut-être qu'éventuellement, si elle a une petite opportunité pour s'enfuir, elle va tenter de s'enfuir. Donc, dans une situation où il y a un danger extrême comme celui dont on parle, ben, la réaction des êtres humains qui voient la scène, elle est tout à fait normale. C'est-à-dire qu'ils, même s'ils le voulaient, en fait, probablement, qu'ils auraient beaucoup de difficultés à oser, en fait, aller de l'avant et faire en sorte que d'intervenir dans une situation aussi dramatique que cela. Il y a peut-être aussi un petit côté pensée magique, dans le sens que on peut avoir une réaction qui se dit, bon, ben, si l'agresseur, je ne le regarde pas, je ne le vois pas, lui ne va pas me voir. Et c'est peut-être une manière, en fait, de tenter d'échapper, en fait, à l'idée qu'on pourrait à notre tour subir les conséquences d'actes d'une violence incroyable.
C'est tellement intéressant, le parallèle avec la souris. Ça explique pourquoi on fige dans des situations comme ça.
On dit souvent qu'on peut figer, fuir ou foncer. C'est les trois réactions dans ce genre de situation-là. Puis il y a des gens qui nous écrivent pendant qu'on jase, Jeff, puis qui disent « Hey, c'est terrorisant. Tu vois la panique dans ses yeux. Elle a trois coups de couteau dans le cou, puis elle comprend pas ce qui se passe, puis elle est en train de mourir. » Puis ça, on vous le jure, là, c'est arrivé. Là, c'est partout. C'est d'assaut sur les réseaux sociaux. Puis tu sais, tu te demandes, est-ce qu'on est rendu dans une société qui est un petit peu plus individualiste, où on est saturé de ce genre de choses-là? Fait que quand ça arrive, là, en vrai, notre cerveau ne fait pas la corrélation avec le drame actuel qui se déroule puis comment on devrait agir.
On pourrait se demander également si ça ne reflète pas aussi quelque part un côté individualiste de notre société. Est-ce qu'on est aussi... face à une violence tellement omniprésente, surtout aux États-Unis, on le voit dans tellement d'épisodes dramatiques ces derniers mois, ces dernières années. Est-ce qu'on est saturé de la violence que l'on peut voir autour de nous? Est-ce qu'on se sent complètement dépassé par éventuellement cette société qui est en train de se désagréger? Et où est-ce qu'on voudrait à la rigueur une augmentation du nombre de systèmes de contrôle, que ce soit par la police? On entend de plus en plus la demande que l'armée soit dans la rue. Il n'y a pas juste M. Trump qui a réagi avec la guerre nationale. Ce sont des questions qui se posent aussi régulièrement en Europe, dans des quartiers qui sont de plus en plus incontrôlables. Et donc, en fait, la peur fait en sorte qu'à force d'en entendre parler aussi dans les médias, la peur fait en sorte qu'on perd un peu notre part de pouvoir et on perd un peu notre capacité à réagir et avoir une solidarité envers autrui. Pas nécessairement parce que la personne n'est pas bonne ou parce que vous et moi, on n'est pas bon. C'est juste que c'est un processus normal et l'idée, c'est peut-être en tant que société de regarder qu'est-ce qu'on fait dans des situations pareilles, de quelle manière est-ce qu'on peut prévenir cette violence abusive, de quelle manière est-ce qu'on peut faire en sorte que quelqu'un qui a par exemple un trouble de santé mentale sévère qui peut l'amener à avoir des crises paranoïaques et ces crises pouvant l'amener éventuellement à mettre fin à la vie de quelqu'un qui n'y a absolument rien fait, peut-être que notre société devrait repenser la manière dont on fait les interventions. C'est bien beau d'utiliser des médicaments pour conjuguer ou conjuguler certains symptômes problématiques, mais je crois qu'il faut aller bien au-delà. Qu'est-ce qui amène en fait ces gens à perdre le contact avec eux-mêmes? Et s'ils perdent le contrôle d'eux-mêmes, qu'est-ce que notre société peut mettre en place pour prévenir des situations comme celle-là? Et peut-être que le fait de reconsidérer la création ou l'élargissement des règles d'internement, comme on avait avant dans des asiles psychiatriques, pourrait peut-être se faire dans des conditions les plus humaines possibles, pourrait peut-être être reconsidéré à nouveau pour pouvoir préserver la vie des gens qui n'ont rien demandé et qui se font éventuellement agresser pour des raisons qui ne les regardent pas ou qui n'ont même pas de raison. C'est ce qui est encore pire.
Tu vois, c'est une pure inconnue que cet homme-là a attaqué de façon gratuite dans le métro, qui a enlevé la vie à cette jeune fille-là. Puis c'est intéressant de revenir sur l'implication des Robert Giffard de ce monde, avant de dire l'asile psychiatrique et tout ça. Est-ce qu'on a un retour de ce type d'établissement-là qui devrait être intéressant à mijoter, du moins, avec, comme il dit, plein de conditions intéressantes, puis beaucoup d'humanité, mais la question se pose.
Vraiment, merci beaucoup, Pascal, pour cet excellent dossier. Puis je pense que ça va faire en sorte qu'on va juger un peu moins également la réaction des gens qui ont figé. Donc, ça, moi, il y a une tonne de préjugés qui viennent de tomber grâce à tes extraits. Merci beaucoup de m'ouvrir l'esprit ainsi, d'ouvrir l'esprit de nos auditeurs. On s'en va rejoindre pour terminer l'émission le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, qui est au bout du fil. Éric, comment vas-tu?
Ça va très bien, merci, vous-même.
Ça va super bien. Alors, Parti conservateur, votre sondage concernant les véhicules à essence. Et Éric, bien, ce qu'on comprend, c'est que les gens tiennent à leurs véhicules à essence au Québec.
63% des gens pensent que c'est pas au gouvernement à décider, c'est à eux s'ils doivent ou non acheter un véhicule à essence, hybride ou électrique. Il y a juste 22% des Québécois qui pensent qu'il faut interdire la vente des véhicules à essence en 2035, comme l'a adopté le gouvernement Legault. Puis il y en a même moins 15% qui sont d'accord avec le Parti québécois qu'il faudrait même interdire les véhicules à essence encore plus tôt, soit en 2030, comme le propose Paul Saint-Pierre Plamondon. Donc, il y a une forte majorité, là, 63% des Québécois, qui est contre ce que 100% des députés ont adopté à l'Assemblée nationale. C'est fou, là. Il n'y a pas un député sur 125 qui représente l'opinion de 63% des Québécois.
Éric, également, parmi là, ceci, là, il y a eu la nomination hier de Bernard Drainville à titre de ministre de l'Environnement. François Legault lui a donné la mission d'accélérer les grands projets. Est-ce que tu crois que la prochaine mission qui s'en vient, c'est de justement repousser cet échéancier de véhicules électriques?
Bien, il faut. Et c'est pour ça, ce matin, j'étais chez un concessionnaire automobile ici à Québec, justement, pour parler de ça, pour inviter Bernard Drainville à écouter la population, à voler l'idée conservatrice là, de mon char, mon choix. Puis il faut qu'ils le fassent rapidement parce que les concessionnaires automobiles, là, ça prend au moins 3 mois pour gérer leur stock là, dans leur parc. Il faut que les gens sachent, là, à partir du 1er janvier, les quotas pour les voitures électriques vont passer de 20 à 32 au Québec. Puis 20 au Québec, là, ils voulaient mettre ça au fédéral à partir du 1er janvier. Puis là, le gouvernement Carney, comme
vous savez. Oui, c'est ça, Mark Carney a reculé là, sur cette promesse-là.
Il a reculé. Fait qu'au Canada anglais, il n'y a plus de quotas, là, ça n'existe plus. Là. Et au Québec, on est déjà à 20. Puis pour être à 20, il a fallu qu'au mois de juillet, l'ancien ministre de l'Environnement, qui était ministre il y a 2 jours, Benoît Charrette, annonce en juillet qu'il changeait les règles du jeu pour inclure les véhicules hybrides dans le calcul des véhicules électriques pour arriver à 20 %. Et 32 %, c'est impossible. À part Tesla, il n'y a aucun constructeur automobile qui est capable de rencontrer les quotas qui vont être imposés à partir de janvier. Donc, c'est pour ça que c'est important que le ministre Drainville bouge dans les prochains jours. Puis moi, j'ai confiance. Très honnêtement, là, Bernard Drainville, c'est un gars qui a pas mal plus les deux pieds à terre. Rappelez-vous, en campagne électorale, il est même devenu célèbre parce qu'il avait dit « lâchez-moi avec les GES ». Donc, moi, j'ai confiance qu'il va reculer sur cet enjeu-là. C'est trop important là, parce que les pénalités pour chaque voiture vendue pour un constructeur qui excède les quotas, c'est 20 000 $ par char. Puis pensez pas que les concessionnaires automobiles ou les constructeurs automobiles vont perdre 20 000 $ dans un char au Québec. Là. C'est nous autres, comme consommateurs, qui allons nous retrouver avec la facture. Là. C'est déjà qu'on est les derniers au Canada à payer une taxe carbone inutile, qu'on paye 20-25 cents de plus qu'en Ontario le litre d'essence. C'est pas vrai qu'on va être les dindons de la face, mais on va payer nos chars 20 000 $ de plus, là.
Non, parce que là, le coût de la vie a énormément explosé. Éric, je t'ai entendu parler du Parti québécois qui voulait devancer justement cet échéancier-là. Oui. Capitale nationale, on ne se le cache pas, c'est un terreau fertile pour le Parti conservateur du Québec. Est-ce qu'on s'attaque au PQ en sachant que la CAQ est morte ou on se dit avec le nouveau Conseil des ministres, peut-être que la CAQ peut revenir dans l'échiquier?
Écoute, l'élection est dans un an. C'est un an en politique, c'est 2 éternités. Là. Ça peut bouger bien des fois, là. mais c'est sûr que présentement, tu as raison, là, dans la région de Québec, c'est une bataille entre le Parti québécois et le Parti conservateur du Québec. Mais tout ça peut beaucoup modifier, là, parce que le Parti québécois, honnêtement, il est pas très au diapason de ce qui se passe dans la région de Québec. Là. C'est un parti qui est en faveur du tramway alors que la population est contre. C'est un parti qui est contre le troisième lien alors que la population est pour. Fait que, puis j'ai l'impression que la région de Québec aussi, là, c'est une des régions où on est les moins friands de la tenue d'un troisième référendum. Donc, j'ai l'impression que plus on va approcher des élections, plus les enjeux vont s'éclaircir. Puis pour ce qui est de la CAQ, tu as raison de le souligner, là. T'sais, on ne sait pas ce qui va se passer. Là. Monsieur Legault dit qu'il veut faire un virage à droite. Est-ce que Monsieur Legault va être encore là? C'est la première question qu'il faut se poser.
Fait que, hey, à cet effet-là, pas de vice-première ministre, tu vois-tu ça comme un départ futur pour François Legault?
Ben écoute, moi aussi j'ai trouvé ça bizarre hier, effectivement, là, qu'il nomme pas un vice-premier ministre. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a personne à la CAQ qui est assez bon pour le remplacer? Je ne sais pas. Mais c'est un drôle de signal qu'il a effectivement envoyé. Mais il a fait un discours hier, là. Faut que je le dise, somme toute, c'est un discours qui était assez conservateur, ce qu'il a dit hier. Il y a bien des choses qu'il a dites avec lesquelles moi je suis d'accord. Mais le seul problème avec François Legault, c'est que tu sais quand il me dit là, il veut réduire le nombre de fonctionnaires, il veut éliminer le déficit, il veut. C'est parce qu'il a été élu en nous disant ça, puis il a fait le contraire une fois arrivé au gouvernement. Même chose avec le privé en santé, il nous promettait deux hôpitaux privés, il a reculé. Il nous promettait d'exploiter notre gaz naturel, il a reculé. Puis le problème, c'est qu'on le croit plus. En politique, quand t'es pas cru, t'es cuit. Et c'est ça qui est en train d'arriver à François Legault. J'ai l'impression que même s'il dit des choses avec lesquelles on est d'accord, j'ai l'impression que les gens entendent juste le mot mensonge dans le fond de leur tête et ça risque d'être ce qui va le miner. Soit étant dit, moi, là, je suis là pour être constructif, être positif. Moi, si François Legault veut nous voler nos idées, moi, je veux l'aider. Là. Moi, je suis d'accord que s'il veut exploiter nos ressources naturelles, s'il veut réduire la fonction publique, s'il veut éliminer le déficit, s'il veut additionner le privé en santé, moi, je vais être là pour l'aider politiquement.
Éric, en terminant et en 20 secondes, le chrono part, c'est comme dans un débat des chefs, je te prépare. Le troisième lien, Siret-Vanier en deux par Pierre Bertrand, le maire de Québec, s'oppose justement à ce projet. Toi, tu es où là-dessus?
Ben nous autres, on pense qu'il faut qu'il passe par l'île d'Orléans. J'ai toujours dit ça. C'est le projet qui est d'un carton du ministère depuis plus d'un demi-siècle, du ministère des Transports. C'est le projet qui coûte le moins cher. C'est le projet où on commence déjà à faire un pont entre la rive nord puis l'île d'Orléans. On a juste à continuer par le chemin Prévost jusque sa rive sud. Pour nous, il y a une seule place où ça doit passer. Puis ça aussi, c'est une bonne nouvelle hier. Là. Pour la région de Québec, il y avait quand même des bonnes nouvelles dans le remaniement. On a Bernard Drinville qui est à l'environnement. Je pense qu'il connaît bien la réalité de la région, puis il est très favorable au troisième lien. Puis il va pas mettre des bâtons dans les roues au projet au niveau environnemental. On a un ministre des Transports qui vient de la région de Québec. Ça va être Jonathan Julien. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Puis on a un ministre de la Capitale-Nationale qui est le député de Montmorency, qui est dans la région de Québec, où le troisième lien arriverait. Notre troisième lien, à nous autres, là, il arriverait dans son comté. Fait que je pense qu'on a l'équipe, là, présentement, pour choisir le meilleur lien puis aller de l'avant avec le troisième lien au plus sacrant.
Éric Duhem, merci beaucoup pour ta collaboration et au plaisir de se reparler bientôt.
C'est un plaisir. Ciao.
Salut, Éric. Alors, c'était Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec. Pascal Cévin, on a réussi notre mission. On a rentré trois entrevues, trois dossiers dans une émission de deux heures. T'es-tu contente?
C'est fait, mesdames
c'est
et
fait.
Messieurs.
C'est fait. Merci pour ta collaboration. On se parle demain?
Oui, absolument.
Excellent. Bonne journée sur les ondes de Boulevard 101. C'est le retour de Gravel qui suit à l'instant.